Merci à tous, merci à la commu, merci à vous les admins pour l'invitation et l'organisation de tout ça. C'est super chouette, je suis très content d'être là ce soir et pouvoir parler un petit peu de l'humanitaire parce que c'est une partie de ma vie maintenant un peu assez importante, si c'est pas la principale. Et donc voilà, l'idée ce soir c'était de vous présenter un peu en. On va dire les grandes facettes de l'humanitaire et puis de partir avec un panneau, commencer avec un panorama pour raconter un petit peu bah, c'est qui fait de l'humanitaire aujourd'hui dans le monde. D'avancer un petit peu en parlant de quelques entités, quelques organisations spécifiques, rentrer un petit peu dans le détail et puis ensuite, plus précisément, une ONG à quoi ça sert, comment ça fonctionne en interne, le recrutement, les objectifs d'une ONG, etc. Et puis de parler, d'expliquer un petit peu comment c'est la vie sur le terrain, comment ça se passe, voilà, et puis comment ça se passe avec la population locale et un peu les financements. On essaiera d'aborder un peu la thématique aussi des financements à la fin. Donc voilà, grosso modo, le thème, les thèmes pour ce soir. Et ce que je vous propose, c'est que je vais commencer par me présenter rapidement pour que vous puissiez comprendre d'où je parle. Donc voilà, j'ai commencé, moi je suis rentré dans l'humanitaire par la petite porte en 2006, vraiment par hasard. À cette époque-là, je bossais à Genève et dans un journal, il y avait une annonce, venez travailler à la Croix-Rouge. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'humanitaire. Donc je suis rentré par la Croix-Rouge internationale, je suis arrivé à la Croix-Rouge internationale. J'ai un profil à la base issu du commerce, j'ai bossé dans le tourisme, donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, ils cherchaient un profil justement, plutôt issu du commerce, qui parlait anglais, français, qui avait envie de partir à l'étranger pour faire de la gestion de l'information, de la gestion de bases de données, en fait. Mais une gestion administrative des bases de données, pas la gestion informatique. Dans l'idée, c'est que la Croix-Rouge internationale, dans ses contextes d'opération, dans les endroits où elle bosse, elle collecte de l'information sur ses bénéficiaires, et notamment les enfants qu'elle rencontre et qui sont séparés de leurs parents. Et aussi les prisonniers qu'elle rencontre dans les prisons qu'elle visite. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré. C'est un taf qui payait pas de mine forcément, qui n'était pas forcément le plus réputé au sein de l'organisation, on va dire. Un peu le boulot du geek dans l'organisation. Et je suis rentré là-dedans en 2006. Et là, j'ai enchaîné les missions pendant 9 ans sur le terrain. Et 9 ans, c'était vraiment. Je suis parti en décembre 2006, j'ai atterri à Kinshasa. Et je suis resté un an à Kinshasa. De Kin, en plus, j'ai enchaîné après les missions, principalement en Afrique. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en gros, je suis resté entre 6 mois et 2 ans dans chaque pays. Donc 2 ans pour le plus long, mission plutôt tranquille, et 6 mois, c'était 6 mois et demi, c'était la Libye pendant la guerre. Je suis arrivé en août 2011 et j'en suis reparti grosso modo en février 2012. Donc je suis arrivé, Kadhafi était encore au pouvoir, je suis parti, il était mort. Et je suis arrivé, j'ai commencé à bosser en Libye par exemple, j'étais à Benghazi. Et j'ai fini la mission basée à Tripoli, puisqu'on avait déplacé les bureaux avec la chute du pouvoir. Donc voilà, moi j'ai enchaîné les pays et les contextes les plus effectivement les plus intéressants dans tout ça, même s'ils le sont souvent tous. Mais ben, ça a été le Congo, ma première mission, donc la République démocratique du Congo, la Libye, j'ai fait l'Afghanistan aussi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 9 ans de terrain. Après, je suis rentré au siège, j'ai travaillé dans les RH d'organisation, et puis après j'ai quitté, je suis retourné dans le privé, et aujourd'hui je bosse pour une autre ONG française, celle-là. Alors techniquement d'ailleurs, je ferai peut-être une explication tout à l'heure, mais la Croix-Rouge internationale n'est pas une ONG, mais j'expliquerai après. Voilà, je donne beaucoup d'informations sur mon parcours, et en fait je me dis que s'il y a quelqu'un qui me connaît, qui connaît un peu l'humanitaire, il pourrait facilement me retrouver avec les informations que j'ai données, parce que les parcours en fait sont assez finalement très personnels. Et c'est vrai que c'est toujours particulier d'écrire en fait son parcours. Voilà. Bref, Voilà un peu d'où je parle. Donc, 9 ans, pendant ces 9 ans sur le terrain, principalement, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, c'est que donc j'ai travaillé dans un département de la Croix-Rouge internationale qui s'appelle la protection des populations civiles, dans lequel une des activités principales, c'est le rétablissement du lien familial, dans lequel donc on s'occupe de renouer les liens entre personnes séparées. Donc, ça peut être des enfants. Qui sont pendant qu'il y a eu une attaque sur un village, ils ont fui d'un côté avec les voisins, les parents ont fui de l'autre côté, ils ont traversé une frontière et on les remet en contact. Et puis, ça peut être aussi voilà, des adultes qui ont perdu contact aussi à cause d'un conflit, qui ont voyagé, migré et qui n'ont pas de nouvelles de l'un de l'autre pendant des fois des années. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit, ah, mais moi j'aimerais bien retrouver ma mère, ma cousine, mon frère. Etc., qui contacte la Croix-Rouge et la Croix-Rouge ouvre ce qu'on appelle une demande de recherche. Et voilà, donc ça fait partie des activités qu'on faisait, ainsi que les visites des prisons pour évaluer les conditions de détention des détenus. Et donc, de ce fait, ben, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de prisons. J'ai visité des prisons dans pratiquement tous les pays où j'ai bossé. Et bon, les plus intéressantes, ça a été. Notamment la prison j'ai visité la prison de Bagram en Afghanistan, celle gérée par les Américains qui a été transférée depuis aux Afghans, mais où étaient détenus tous les combattants talibans d'intérêt pour les Américains, dont une partie qui ont été ensuite transférées à Guantanamo. Donc j'ai visité cette prison plusieurs fois, j'y suis allé de manière régulière pour justement évaluer les conditions de détention. Donc voilà un petit peu le type de trucs que j'ai fait là-dedans, avec comme, on va dire, comme ligne rouge, toujours la gestion de données, c'est-à-dire m'assurer que quand on collecte de l'information individuelle, c'est-à-dire des noms, le nom d'un détenu, son parcours de détention, etc., bah, qu'on puisse standardiser l'information. Donc pour les geeks qui sont ici, j'imagine que vous comprenez assez bien ce que je veux dire, pour pouvoir ensuite en sortir des statistiques, faire comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis pouvoir retrouver les gens simplement, quoi. Voilà. Donc vraiment un boulot autour de la base de données. Donc voilà un petit peu voilà le profil pour moi, mon profil. Et maintenant, bah, je vais essayer de rentrer un petit peu directement dans le sujet. Donc l'humanitaire panorama. L'humanitaire aujourd'hui, en fait, quand on parle d'humanitaire, on pense à la Croix-Rouge, on pense à MSF, Médecins sans frontières, à Médecins du Monde peut-être. Voilà, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entités qui font de l'humanitaire que ça, puisque certaines armées font de l'humanitaire. Par exemple, l'armée néo-zélandaise n'est quasiment jamais déployée sur un conflit et pratiquement n'est déployée que pour des raisons humanitaires. L'armée néo-zélandaise, par exemple, intervient sur des éruptions, sur des tremblements de terre. Sur des choses comme ça, où ils vont déployer des hôpitaux de terrain, ils vont déployer des infrastructures grâce au génie ou des choses comme ça. Donc les militaires font de l'humanitaire, ce qui est toujours un peu particulier quand on y pense et qui peut, dans certains cas, brouiller les cartes aussi au niveau des populations locales, mais on pourra en reparler. Les autres entités qui font l'humanitaire, bah, c'est les gouvernements à travers. Ça peut être aux États-Unis, c'est USAID, donc l'organisme de développement en fait du ministère des Affaires étrangères américain, du département d'État américain. Et ensuite, en France, c'est l'AFD, par exemple, qui fait aussi du développement, mais dans le développement, il y a souvent des parties humanitaires, avec du soutien, du financement de projets, des choses comme ça. Quand on parle d'humanitaire, on pense urgence, mais en fait, on ne fait pas que de l'urgence dans l'humanitaire. Il y a du développement aussi. Et ensuite, on a les Nations Unies, qui est une entité à part, une entité spécifique, avec des mandats spécifiques. Les Nations Unies en tant que telles, elles déploient aussi des militaires. Et puis, elles font de l'humanitaire à travers notamment des agences des Nations Unies, donc qui sont encore des sous-entités, on va dire, dans les Nations Unies. Vous avez, qui sont très connues, bah, il y a l'UNICEF, qu'on voit souvent dans les rues. Aussi collecter des fonds, mais il y a le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, qui est très connu dans le milieu parce que justement il s'occupe de tout ce qui est réfugié, passe par le HCR. Il y a UN, donc Women, l'agence des Nations Unies qui s'occupe des femmes, enfin de la protection des femmes, qui est aussi très présente sur le terrain. Il y a l'Organisation internationale des migrations. Voilà, il y a différentes agences au niveau des Nations Unies qui sont très impliquées avec des énormes budgets aussi. On parlera de l'argent tout à l'heure. Et puis après tout ça, on a les ONG. Et dans les ONG, on va avoir plusieurs types d'ONG. On a des ONG qui sont ce qu'on appelle des organisations internationales, et on a des organisations non gouvernementales. Les organisations internationales, elles ont un mandat souvent qui a été un mandat politique en fait. C'est-à-dire qu'elles ont reçu un mandat de la part d'État, de la part des États, de la part des Nations Unies, etc. L'organisation pour laquelle j'ai travaillé, le Comité international de la Croix-Rouge, fait partie des organisations internationales, mais ici encore très particulier. J'essaierai de vous faire un brief un petit peu plus tard, un peu après, là-dessus. Et puis donc je disais organisations internationales, et ensuite les ONG plus traditionnelles qu'on connaît. Donc les ONG traditionnelles, j'ai cité MSF, j'ai cité Médecins du Monde, on a Action contre la faim, dans les françaises très connues. Mais vous avez Acted, qui est une des très connues sur le terrain d'ONG française, Première Urgence Internationale. Vous avez aussi Triangle Humanitaire, vous avez aussi Handicap International, vous avez aussi. Bon, ça c'est principalement des françaises, mais après dans les étrangères, vous avez Norwegian Refugee Council, vous avez Danish Refugee Council, vous avez International Rescue Committee, IRC, qui est aussi très connue. Ah, mais qui est une ONG américaine. Vous avez World Vision, qui elle a plutôt on va dire un fondement catholique, etc. Donc en fait, vous avez un panel d'ONG très différentes, avec des profils très différents, qui viennent de pays différents, et donc quelque part qui ont un bagage aussi qui vient avec ça. Et ça crée en fait des profils d'ONG très particuliers. Par exemple, si on prend, j'ai pas parlé de World Vision, qui a une connotation très catholique, hein, qui clairement affiche une approche catholique dans son mandat, en fait, dans sa mission. Il y en a d'autres aussi qui portent plutôt un message autour de l'islam aussi. J'en ai pas en tête, mais il y en a des très importantes avec des énormes budgets aussi et qui sont présentes dans beaucoup de pays. Et puis le dernier groupe auquel on pense beaucoup moins souvent, c'est dans l'humanitaire, c'est toutes les ONG locales en fait. C'est-à-dire que dans les pays où on bosse, il y a énormément, énormément, énormément d'ONG locales qui sont en fait souvent ceux qui mettent en œuvre les programmes financés par les grandes ONG, par les grands donateurs en fait. Donc UNICEF, concrètement, ne fait quasiment jamais ne déploie quasiment jamais de programme. C'est-à-dire, UNICEF finance, UNICEF supervise, UNICEF contrôle des programmes qui sont mis en œuvre, en fait, par des ONG, la plupart du temps, locales. Elle passe aussi de temps en temps par des ONG plus grosses. Elle peut passer à travers Acted, par exemple, qui se fait financer certains programmes. Mais elle passe aussi beaucoup par des petites ONG, dans certains cas, simplement parce que l'implantation sur le terrain, l'implantation au niveau des populations est beaucoup plus importante, beaucoup plus efficace. Et voilà, donc ça donne un petit peu le panorama de l'humanitaire. L'humanitaire, ça court de la petite ONG locale, par l'ONG plus traditionnelle qu'on connaît bien, qui collecte des sous dans la rue, notamment en période de Noël et compagnie, jusqu'au militaire. Et tous ces gens-là font de l'humanitaire d'une manière, je dirais, qui leur est particulière à tous, avec des approches différentes. Notamment, après, on pourrait scinder en fait trois groupes, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'étatique, que ce soit les militaires ou le département d'État, l'AFD pour la France, l'Agence française de développement. Eux répondent à un programme quelque part politique. Ensuite, on a les Nations Unies, qui est un groupe particulier qui, lui, a aussi quelque part une mission politique. Et après, on a les ONG, internationales et nationales, qui, elles, ont plutôt une approche beaucoup plus neutre, en fait. Donc voilà un peu le panorama, on va dire, des grandes ONG, enfin, du panorama de l'humanitaire et des différents acteurs, en fait, dans le ménage. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'en profite, au cas où.
Justement, ouais, alors pour l'instant, pas beaucoup de questions, mais quelques-unes. Alors, il y en a une de Praly, justement, par rapport à ce que tu disais, de la collecte de données pour un but précis, ou juste de la statistique pour être publiée. Où sont-elles, alors, pardon, où sont remontées les infos et comment sont-elles utilisées?
Alors en fait, la collecte de données qu'on fait, elle est faite principalement à des fins opérationnelles, c'est-à-dire avec pour simplement savoir qui on suit. Parce que par exemple, moi, quand j'étais en RDC, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, je suivais 70 000 personnes. Donc en fait, quand on rentre dans une prison comme la prison de Makala, qui est la plus grande prison du Congo à Kinshasa, qui fait 8 000 personnes, la prison de Kinshasa, il y a des gardes à l'extérieur, mais il n'y a pas de gardes à l'intérieur en fait. Et donc, quand on y va, il faut qu'on puisse soit sûr en fait de pouvoir revoir la personne, etc. Et si on ne sait pas exactement qui était le gars qu'on a vu la dernière fois, ben, on ne saura pas le retrouver. Et je vois qu'il y a une. On m'a tagué, donc j'ai pu aller voir, suivre les personnes dans quel but. L'objectif, en fait, c'est de faire du suivi des conditions de détention dans les prisons, principalement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont arrêtés, par exemple, par les services de renseignement, qui finissent dans les mains de la police, puis à travers le ministère de la Justice dans une prison, et qui ont été maltraités, on va dire, tout au long de leur parcours ou à un moment dans leur parcours. On va enregistrer ces personnes, c'est-à-dire qu'on va prendre leur identité, on va se renseigner, savoir auprès d'elles si leur famille est au courant qu'ils sont en prison. Parce que pour énormément de gens dans les prisons, dans les pays où j'ai bossé, la famille n'était pas forcément au courant. Il y a énormément de gens qui ont passé des années et des années en tôle et qui, à un moment, rencontrent quelqu'un de la Croix-Rouge, comprennent à ce moment-là qu'ils peuvent passer un message à leur famille. Ils ne l'avaient jamais fait. Et ça peut paraître très très surprenant, mais ça arrive très souvent. Et en fait, moi, j'ai pris des messages, j'ai rédigé avec un interprète des messages pour des personnes à envoyer à leur famille. Certains, ça faisait des années qu'ils étaient en taule, la famille n'était pas au courant. Et quand on a délivré le message et qu'on a eu une réponse, enfin, c'est hyper touchant parce que les gens se rendent compte que des fois, la famille pensait qu'il était mort, quoi. Parce que pas de nouvelles, parce que la famille ne savait pas, parce que la famille s'est peut-être renseignée auprès des autorités qui leur ont dit on ne sait pas où il est. Et au bout de plusieurs années, tout d'un coup, le mec dit non, mais en fait, je suis en prison. Voilà. Et donc, ces gens, à chaque fois qu'on. Excuse-moi, juste pour terminer, chaque fois qu'on retourne dans une prison, en fait, on suit une personne avec un but précis. Donc, pour certains, c'est par exemple de s'assurer qu'ils puissent voir un médecin, qu'ils puissent aller à l'hôpital. Pour d'autres, c'est parce que, par exemple, il y a un problème au niveau du casier judiciaire, enfin au niveau de la procédure judiciaire, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'est pas légal, et donc on essaye d'intervenir pour réparer en fait le truc et éventuellement que certaines personnes soient libérées, quoi. Pense que ça répond à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors justement, c'était en fait c'est moi qui l'a posé, où je te demandais en fait pour la récupération en fait d'infos sur les civils quand c'est un terrain justement de guerre, terrain difficile, etc. Comment finalement on gère l'accès à leur identité pour en fait, j'imagine, certains ne pas les mettre peut-être en porte-à-faux, tu vois, par rapport à un gouvernement ou enfin peut-être certains travaillent peut-être avec une autre identité parce qu'ils, j'en sais rien, ils veulent pas être reconnus. Est-ce que là-dessus en fait quand ils dévoilent leur identité pour justement, par exemple, est-ce que ça limite, voilà, cette partie-là, elle est gérée comment du coup?
Alors il y a deux aspects là-dedans. La première chose, c'est qu'en fait, nous, on force personne à nous donner son nom. C'est-à-dire que si une personne elle ne veut pas être suivie, on la forcera pas. C'est-à-dire qu'on va poser la question, voilà, on explique notre travail. On dit, est-ce que nous, on peut vous proposer de vous suivre pour pouvoir revenir vous voir comment ça va, etc. Si le gars il veut donner son nom, son vrai nom, un nom faux, moi je m'en fous, en fait. Je vérifie pas sa carte d'identité. Je sais juste que le gars, il est dans la cellule 3 du deuxième étage du bâtiment 7 de l'aile ouest de la prison de Kaboul. Et que chaque fois que j'irai dans la prison de Kaboul, j'irai prendre cette information. La plupart du temps, enfin, j'irai voir cette personne à tel endroit. La plupart du temps, on reçoit en amont même l'information. des autorités, c'est-à-dire que souvent, quand on est connu, quand on est dans des contextes où on travaille depuis longtemps, en fait, les autorités nous connaissent. Et par exemple, à la prison de Kaboul, le premier truc qu'on fait quand on arrive, c'est qu'on va voir le registre. Et donc, ils nous disent, ah ben voilà, on a eu 30 nouveaux détenus sur l'aile ouest. Et nous, automatiquement, comme on a déjà enregistré tous ceux d'avant qui avaient des problématiques, on va voir les 30. Et aux 30, on leur pose la question, OK, comment ça s'est passé votre parcours? Est-ce qu'il y a eu des problématiques, etc. Voilà ce qu'on fait comme travail, etc. Certains ont envie de nous donner des informations, ont envie de nous parler, d'autres non. Et ça, c'est libre à eux. Une fois qu'on a l'information, nous, l'information, après, elle est hébergée dans nos serveurs, qui étaient jusqu'à présent hébergés en Suisse et qui ont été migrés, je ne sais plus où, mais en Allemagne, je crois. Et en fait, là, j'ai envie de dire, l'information, elle est sensible, mais les gens, quand on les rencontre, la plupart du temps, nous, le travail qu'on fait, la plupart du temps, on le fait avec des gens qui sont déjà connus des autorités. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre de l'information, ça peut m'arriver de prendre de l'information, peut-être d'un mec qui est prisonnier et qui n'a jamais donné son vrai nom. Bon, limite, il est connu sous le nom de Roger Marchais. Bon, bah, c'est Roger Marchais, quoi. Et limite, quand je vais le voir, je revois Roger Marchais. C'est tout, quoi. Je ne cherche pas à savoir s'il a un autre nom ou pas. Donc, en fait, à ce niveau-là, l'information est assez. Finalement, c'est le détenu qu'on voit quand on est dans le cadre d'une détention. C'est le détenu qui choisit ce qu'il veut dire et comment il veut le dire, etc. On a des détenus. J'ai eu le cas de détenus qui. Étaient arrêtés sous leur vrai nom, on avait leur vrai nom, ils ont écrit à leur famille, et quand ils ont écrit à leur famille, on sait, dans certains cas, que la famille a été maltraitée à la suite de ça. C'est-à-dire que les autorités ont un droit de regard sur les messages qui sont envoyés, donc les messages qu'on transmet, c'est les messages papier, qui sont écrits par les détenus, et en fait, quand on les emmène, ils passent à la censure, en fait. Et ça fait partie du deal qu'on a pratiquement partout avec les autorités. Et donc c'est vrai que de temps en temps, ben, les autorités ont accès au nom des familles qui reçoivent les messages, et donc à des infos, enfin, les autorités ont accès voilà, des infos sur les détenus. Mais finalement, le détenu fait le choix, lui, d'écrire. Ils savent, on est clair que les autorités vont relire les trucs. Il y a des détenus qui nous demandent, est-ce que les autorités vont relire le message? On leur dit oui, ok, j'écris pas. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas protéger complètement l'information. C'est vraiment le détenu qui choisit de se positionner, de faire ce qu'il a envie, en fait. Mais la plupart du temps, il y en a très peu qui écrivent pas. Enfin, il y a très peu de personnes qui nous parlent pas, en fait. Hein. C'est très, 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 très rare, quoi. Voilà.
Mais juste un truc, c'est que quand même, quoi qu'il arrive, vous êtes très clair de vous donner l'information à ce niveau-là pour que voilà, y ait pas de côté biaisé là-dessus. Ils savent très bien en gros que c'est écouté et voilà ce que tu disais pour que
Oui,
ils puissent s'ouvrir.
complètement. Oui, on est transparent en fait là-dessus.
Ouais, voilà, complètement transparent. Alors c'est justement ce jour bondi parce qu'il y avait la question de Mira en fait qui posait dans quel but aider les prisonniers plutôt que d'autres personnes dans le besoin. Bon là c'est pas, je pense que c'est parce que c'était t'étais dans la partie thématique des prisons, mais je pense éventuellement tu peux lui dire.
Voilà, en fait, moi, travaillant pour la Croix-Rouge internationale, finalement. La Croix-Rouge internationale travaille dans plein de domaines différents. C'est-à-dire qu'elle a des programmes d'eau et d'assainissement, où par exemple, elle peut remettre en fonctionnement complètement le réseau d'adduction d'eau d'une ville entière. C'est déjà arrivé en Afghanistan, dans d'autres pays, en Érythrée. Elle peut aussi avoir des programmes autour de l'aide alimentaire, où par exemple, elle travaille à recréer une économie locale. En fournissant à des populations un cheptel, par exemple, de bêtes, quand la guerre a décimé les cheptels existants. Et donc là, on est plutôt sur des projets qui vont cibler des régions entières, des villages, des villes, etc. Ensuite, on a des programmes, il y avait des programmes médicaux, il y a des programmes médicaux d'urgence, d'hôpitaux de guerre, où on traite des blessés. Des victimes directes, concrètes de conflits, quoi. Il y a des programmes autour de la réhabilitation, pardon, de la rééducation, etc., pour des gens qui ont, voilà, qui ont eu des accidents avec des mines, par exemple. On produit des prothèses, des orthèses, etc. Et voilà, à côté de ça, on a la partie détention. La partie détention, c'est le cœur, finalement, de la mission de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge internationale, elle est née il y a 150 ans sur un champ de bataille à Solferino. Et l'objectif qui a été posé dès le début, ça a été d'accompagner les prisonniers de guerre, les blessés de guerre et les prisonniers de guerre ensuite. Et donc, en fait, le mandat de la Croix-Rouge internationale, il est venu d'ici. Et c'est pour ça que la mission de la Croix-Rouge internationale, le cœur de son métier, c'est les prisons. Et donc, les prisons et, on va dire, les hôpitaux de guerre, quoi. Et donc pourquoi les détenus? Bah, principalement parce qu'au sein de la Croix-Rouge internationale, c'est sa mission. Mais si tu prends d'autres ONG, elles vont avoir d'autres spécialités. Action contre la faim, ils font pratiquement que des trucs autour de la food security, donc sécurité alimentaire. Voilà. Je pense que ça répond à d'autres choses.
Juste deux
Vas-y.
petites questions très rapides. Prali qui demandait, mais je pense que la réponse est déjà donnée. Vous n'avez pas le droit de transmettre vous-même le courrier, donc entre guillemets, chanter finalement l'autorité. Mais je pense que tu as répondu en disant que de toute façon, ça faisait partie du consensus avec l'autorité. Mais au cas où, on ne sait jamais si tu as un prisonnier qui te dit vraiment, j'en sais rien, j'aimerais vraiment que ça passe en mode off. Tu as une possibilité ou j'imagine que.
Alors, c'est quoi le risque si je le fais? Le risque, si je le fais, c'est que si l'autorité l'apprend, et sincèrement, il y a énormément de chances qu'elle l'apprenne, ne serait-ce que par exemple parce que l'autorité demande à un détenu de me demander de le faire, pour voir, pour nous tester en fait. Ce genre de choses arrive, hein. Et si je le faisais, ben en fait ils disent, ah, vous passez des messages sans les faire passer à la censure, ce sont des messages secrets, vous êtes un espion, moi je peux me faire arrêter, et l'organisation complètement peut perdre l'accès total à toute la prison. C'est déjà arrivé. Donc en fait, j'essaie d'aider un détenu à passer le truc et je pénalise tous les 600, 700, 1000, 5000, 8000 détenus de la tôle, quoi. Donc en fait, est-ce que j'aide un détenu au risque de pénaliser les 8000 ou est-ce que j'aide pas ce détenu spécifiquement en essayant de lui expliquer plutôt qu'il y a peut-être d'autres moyens, qu'il peut peut-être écrire à des personnes qui peut. Enfin, tu vois, souvent les messages en plus qu'on passe, ce sont des messages qui sont plutôt je vais bien, envoyez-moi à manger, je suis en vie, etc. Donc on n'est pas en train de passer de l'information cruciale. Enfin, elle est cruciale, mais. C'est pas du renseignement, c'est pas de l'intelligence, quoi, on fait pas du renseignement. Donc, la seule chose qui est sensible là-dedans, c'est le destinataire, en fait. Souvent, les gens, en fait, ils trouvent des destinataires qui sont pas sensibles. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer à leur voisin, qui lui transmettra le message, tu vois. Ça se passe un peu comme ça.
Ok, et une petite question, mine de rien, de Shadok. Est-ce qu'avec toi, est-ce qu'il y a des autorités avec toi dans la cellule? Ou alors est-ce que tu es tout seul vraiment pour le coup avec le détenu?
Dans ce qu'on faisait, bon, on est rentré direct dans le vif du sujet, hein, sur les programmes et tout ça. Mais alors, le deal, quand on bossait comme ça, dans la mesure du possible, on n'avait pas d'autorité avec nous. C'est-à-dire que moi, j'ai passé des heures et des heures dans des tôles, assis par terre, avec les détenus, avec un interprète ou pas, ça dépendait des pays, à papoter, avec zéro garde, quoi. Comme je disais, à Kinshasa, il n'y a pas de garde dans la prison, de toute façon. Alors, il y a d'autres détenus, des fois, qui veulent écouter, mais la plupart du temps, en fait, on demande à être assis, seul à seul avec le détenu, en fait, pour qu'il se sente vraiment libre de nous dire tout ce par quoi il est passé, et qu'il raconte tout ce qu'il a pu entendre, de mauvais traitements, de choses comme ça, quoi. Et donc, oui, il y a des moments très compliqués dans ces discussions-là, parce que c'est très émouvant, et pour certains, c'est très dur, en fait, de partager certaines choses qui leur ont été faites, ce qu'ils ont subi, parce que c'est des traumatismes, parce que c'est hyper violent, quoi.
Et on
Voilà.
avait juste un complément de question de Mira par rapport à la question sur pourquoi aider les prisonniers plutôt que d'autres personnes dans le besoin.
Et je lis son message. La question sous-jacente, comment sont priorisés les sujets à aider?
Ouais. Idéalement, on essaie d'aider le maximum de monde, c'est-à-dire que dans une prison, par exemple, il y a une prison de 8000 détenus, on n'aide pas tous les détenus pareil. On va faire des choix qui sont principalement des choix basés sur notre capacité à agir. C'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de choisir des gens pour qui on peut faire quelque chose. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc en fait, typiquement, on va un peu se spécialiser, quoi. Par exemple, on va plutôt avoir tendance à enregistrer les prisonniers politiques, parce qu'ils sont aussi plus à risque. On va enregistrer les personnes qui ont des besoins médicaux, parce que ça, on peut agir assez rapidement. Et après, c'est souvent les prisonniers eux-mêmes qui nous remontent des cas. Ils nous disent, allez voir telle cellule, telle personne. Il y a un problème, là, vous allez pouvoir l'aider. Et c'est souvent les prisonniers qui font le choix pour nous, en fait. Nous, on va aborder de manière assez large certaines thématiques, et après, les prisonniers nous font remonter des trucs. Maintenant, je ne crois pas avoir bossé dans une prison où, d'un côté, on travaillait sur les cas individuels, et de l'autre côté, on n'est pas aidé l'ensemble de la prison à travers des distributions de couvertures, des distributions de nourriture, avec une réhabilitation de tout le système de flotte de la prison, parce qu'en fait, les mecs, il y a la moitié de la prison qui n'avait pas d'eau et l'autre qui avait de l'eau, des choses comme ça. Donc en fait, tous les prisonniers bénéficient quelque part de quelque chose, ne serait-ce que par une distribution de savon, par exemple. Dans pratiquement toutes les tôles où j'ai bossé, on distribuait les savons. Les prisonniers avaient un savon parce que la Croix-Rouge donnait des savons, en fait. Donc on essaie d'aider au maximum, et maintenant, on est aussi spécialisé sur certains trucs, de par notre mandat. Dans les contextes de guerre, on travaille principalement autour des prisonniers de guerre. Donc si vous avez un conflit aujourd'hui, Ukraine-Russie, quand il y a des prisonniers, tu peux quasiment être sûr que la Croix-Rouge, même si elle n'est pas mentionnée dans les news, elle l'est de temps en temps, on est au cœur du truc en train de négocier les libérations ou d'offrir nos services, par exemple, pour les échanges. Voilà.
Il y avait une continuité de la question de Genista où en fait il dit, y a-t-il une modulation du support apporté aux détenus en fonction de leur motif d'incarcération? Par exemple, si le prisonnier est détenu pour meurtre, viol, etc.
Non.
Ou j'imagine forcément aussi le côté politique de la chose.
Non. Non. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi, c'est. Je vais te dire. Ouais. Alors, on... non. La personne, elle a un problème, c'est la personne a un problème, point, quoi. Qu'elle est... Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est qu'en fait, t'es jamais sûr de pourquoi la personne a arrêté. La personne, elle va dire, j'ai été arrêté pour ci. Où j'ai été arrêté pour ça, mais en fait, on n'est jamais vraiment sûr du pourquoi. Est-ce que c'est ce que les autorités te disent? Est-ce que c'est ce que le détenu te dit? La plupart du temps, c'est déjà deux informations différentes. Donc en fait, c'est compliqué à ce niveau-là d'avoir la meilleure information et donc de faire un choix. Si tu fais un choix, mais sur une information qui est fausse, qui n'est pas correcte, en tout cas, techniquement, tu fais un mauvais choix. Donc en fait, on ne fait pas de choix. Et puis comme ça, on est tranquille, il n'y a pas de jaloux, quoi.
Ok, bah écoute, je pense que là, on va laisser filer ce premier fil de questions pour te laisser continuer la suite.
Ouais, ça
Et
marche.
je te laisse.
Mais en fait, on est déjà rentré pas mal dans le sujet. J'allais passer en fait un petit peu à grosso modo, rentrer dans le, on va dire le squelette d'une ONG, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et quoi. Comme j'expliquais, en fait, les ONG, elles ont quasiment toutes une mission particulière. La Croix-Rouge internationale, son mandat, c'est les conventions de Genève, c'est-à-dire les conventions qui définissent la protection, la protection des prisonniers de guerre, qui articule en fait le droit de la guerre, c'est-à-dire le droit international humanitaire. À la guerre, tu as le droit de tuer. C'est autorisé, en fait. Tu n'as juste pas le droit de tuer des civils. Mais tu as le droit de tuer un mec qui est en face et qui te tire dessus. À partir du moment où un civil prend un fusil, c'est un combattant. Donc si c'est un combattant, tu as le droit de le tuer. Si tu es un combattant en face, quoi. T'as pas le droit de détruire des infrastructures qui servent aux civils. T'as pas le droit de détruire un château d'eau, par exemple. Tout ça, c'est le droit de la guerre. Ça, chaque organisation, finalement, a sa mission. La Croix-Rouge internationale, sa mission, c'est le DIH, c'est le droit international humanitaire. MSF, ben, Médecins sans frontières, ils font du soin, ils travaillent dans la santé. ACF, Action contre la faim, voilà, ils font de la sécurité alimentaire. Chaque ONG a sa mission, et c'est spécialisé. Handicap international, c'est autour du handicap, etc. Et en fait, cette mission va définir finalement le profil de l'ONG, et donc aussi, quelque part, ses modes d'action. Donc quand on pose la question à quoi ça sert une ONG, ben en fait ça dépend des ONG, elles ne servent pas toutes à la même chose elles n'ont pas toutes les mêmes effets aussi. Donc quand on parle, je vous parlais tout à l'heure des ONG locales, bon les ONG locales, souvent elles sont très. Elles ont. Il y a différents niveaux d'ONG locales. Il y a l'ONG locale, c'est-à-dire territoriale au niveau du village, d'une petite région, ou des choses comme ça. Et puis il y a des ONG locales qui sont quand même plus grandes, qui ont une dimension nationale dans le pays où elles sont. Et chacune de ces ONG, finalement, a aussi un rôle qui lui est propre et qui vient finalement, qui est né, qui est arrivé avec la naissance de l'ONG au moment où la personne qui a lancé l'ONG ou les personnes qui ont lancé l'ONG ont décidé de la faire. Donc en fait, on peut avoir des choses très très différentes. On peut avoir des ONG qui vont se focaliser sur les enfants parce que les personnes qui ont lancé le truc avaient envie de travailler avec les enfants. Et puis d'autres qui veulent se spécialiser uniquement sur la sécurité alimentaire, d'autres qui veulent se spécialiser sur le droit, etc. Et en fait, il y a vraiment des ONG pour tout faire, j'ai envie de dire. Ça, c'est un peu le point négatif aussi, c'est qu'en fait, il y en a énormément, parce que dans les pays où j'ai bossé, eh ben c'est vrai que c'est un moyen de collecter pas mal d'argent et de se faire un salaire, en fait. Donc il y a pas mal de gens qui sont dans les. D'ailleurs, ça peut être aussi des expatriés. Qui sont installés dans certains pays pour y faire des ONG locales, quoi. Voilà. L'objectif final de tout ça, de toute façon, c'est quoi? C'est d'améliorer les conditions de vie des personnes sur place, quoi. Et diminuer la souffrance, diminuer l'impact, finalement, des conflits, des catastrophes. Et après, dans chaque ONG, grosso modo, on va voir. Je vais schématiser un peu le truc pour que vous ayez une idée, mais dans pratiquement toutes les ONG, vous avez finalement un conseil d'administration. Alors, ça va peut-être pas forcément s'appeler un conseil d'administration partout, ça peut être un directoire, ça peut être, voilà, ça peut avoir différents noms. Mais grosso modo, vous avez un groupe de personnes au sommet qui prend les décisions stratégiques. Et en dessous, vous avez différents départements, souvent un département au niveau des opérations. Là, je parle quand même d'ONG qui ont une certaine dimension, hein. Si on prend la petite ONG locale au niveau d'un village, ça sera pas aussi gros que ça, forcément. Mais si on prend MSF, si on prend Handicap International, si on prend voilà, d'autres comme ça, vous avez un conseil d'administration. Ensuite, vous avez en dessous un département, une direction qui est autour des opérations, qui, elle, va déployer les programmes de l'ONG. Et après, vous avez autour tout ce qui est fonction support, informatique, administration, finance, ressources humaines, etc. Ensuite, vous avez. La partie financement de l'ONG, qui peut avoir une direction à elle propre, peut-être une direction aussi autour de l'innovation, de la transformation, des choses comme ça. Mais là, c'est vrai qu'on est déjà sur des ONG qui brassent quelques millions, quoi, hein. Pour vous donner des ordres d'idées, juste pour qu'on puisse quand même savoir de quoi on parle, le comité international de la Croix-Rouge, c'est 2 milliards de budget par an, 2 milliards de francs suisses. La Croix-Rouge coréenne, à elle seule, c'est 2 milliards aussi. MSF, c'est compliqué. MSF, il y a plusieurs branches. Vous avez MSF Suisse, Belgique, France, Espagne, etc. Je ne saurais pas le dire. Mais à mon avis, on est autour du quart de milliard, quoi. Ou de la moitié d'un milliard. Un demi-milliard. Des trucs comme ça. Donc ça reste quand même des infrastructures énormes avec beaucoup, beaucoup de monde. Le comité international de la Croix-Rouge, je vais beaucoup parler de lui, hein, parce que je le connais très bien. C'est 20 000 personnes dans le monde. Et ça, c'est que le CICR. Je parle pas de la Croix-Rouge française, etc., qui sont d'autres branches de la Croix-Rouge, quoi, qui sont d'autres entités, on va dire, de la Croix-Rouge. Donc voilà. Voilà un petit peu. Les ONG sont énormément professionnalisées. On n'est plus dans. Il y a toujours des petites ONG, voilà, mais qui sont des ONG nationales, on va dire, dans les pays où on bosse. Qui fonctionne encore un petit peu en mode familial, mais les ONG, les grandes ONG ont grossi, 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 se sont professionnalisées et aujourd'hui ont des fonctionnements au niveau de certaines multinationales, quoi. Quand on prend MSF avec son demi-milliard de budget ou un truc comme ça, hein, c'est un ordre d'idée. Bah forcément, ouais, y a un département logistique, y a un département qui s'occupe d'acheter des véhicules, d'acheter des ordinateurs, de faire des contrats cadres avec Toshiba, avec je sais pas, avec Dell pour les ordi, qui achète des téléphones par dizaines, voire par centaines, qui achète des véhicules par dizaines, qui les fait équiper de radios HF et VHF. Avant de les envoyer sur le terrain, etc. Donc on est quand même sur des énormes structures, quoi, avec tous les métiers dedans. Vous allez avoir des gens qui font de l'achat, vous allez avoir des gens qui font du recrutement, vous allez avoir des gens qui font de l'informatique, vous allez avoir des gens qui font des finances, vous allez avoir des gens qui font le ménage. Voilà, quoi, c'est des énormes infrastructures, quoi. Une ONG à l'intérieur, ça ressemble à ça, en fait, ça ressemble à une grosse boîte, quoi. Avec simplement une mission différente et qu'une entreprise comme Apple, quoi. Mais finalement, qui va fonctionner, j'ai envie de dire, pratiquement de la même manière, quoi. Avec les mêmes procédés, d'ailleurs, de plus en plus, on a des gens du privé qui débarquent dans l'humanitaire et qui mettent en œuvre des process de fonctionnement qui arrivent finalement de ces multinationales. Voilà. Des questions, peut-être?
Ouais, quelques petites questions. Alors, il y en avait une que moi je posais justement. Existe-t-il en fait des ONG qui sont originaires de pays en fait qui ont des systèmes autocratiques justement au pouvoir?
C'est une bonne question. J'essaye de réfléchir. C'est des choses qui me viennent. Pas que je sache. Enfin. Si, si. Enfin, il y a. Alors, c'est compliqué parce que là, je ne suis pas spécialiste du sujet. C'est-à-dire que j'ai pas ni travaillé dans des ONG comme ça. Et je ne suis pas forcément sûr de ce que je vais dire. Donc on va le prendre entre pincettes. Et si j'étais sur Thinkerview, il me dirait surtout pas de diffamation. Hein. Mais il y a. Je sais qu'il y a une ONG, mais j'ai plus le nom, qui est, il me semble, qui a été créée. En Arabie Saoudite, et qui est financé par principalement par le pétrole, en fait, et qui déploie ses programmes dans tous les pays où ce sont des musulmans qui sont victimes, finalement, qui souffrent des problématiques du pays. Et donc, et clairement, à mon sens, l'Arabie Saoudite est un pays autocratique. Donc, avec une dictature au bout, enfin au-dessus, quoi. Peut-être que Biden n'est pas d'accord, mais il fait un check à MDS. Mais voilà, donc il peut y en avoir maintenant. Alors, celle-là, typiquement, il me semble qu'elle est énorme aussi en budget. Hein. On parle de plusieurs milliards de budget. Mais c'est vrai que c'est pas les plus importantes, quoi. La plupart des ONG qu'on voit sur le terrain, qu'on rencontre quand on est sur le terrain, c'est des ONG françaises, américaines, italiennes. D'ailleurs, j'ai pas mentionné, j'ai pas donné pas mal de noms, mais Coppi est une super ONG italienne, Emergency, qui est une super ONG italienne qui gère un hôpital à Kaboul, un super hôpital qui a sauvé la vie de centaines de milliers de personnes à Kaboul. Notamment des étrangers, donc, qui sont pris, qui ont été blessés, des soldats, pour X raisons, il y avait trop de blessés dans l'hôpital militaire, ils ont été envoyés chez les Italiens, etc. Bref. Donc, ouais, des ONG, il y en a vraiment un peu de tout type, et donc, oui, il y en a quelques-unes issues de ces pays, mais il faut quand même avoir des fonds. Et dans les pays auto, enfin, les pays issus de dictature et tout, il y a quand même bah, pas trop de sous pour ce genre de choses, quoi. Voilà.
Ok, écoute, j'en profite, on en profite de faire deux, trois autres questions qui sont pas. Enfin, alors, il y en a une de Madeleine Jacques qui demande bon, c'est juste, est-ce que vous êtes sous une forme quelconque de secret professionnel? Ça, c'était juste parce que ça revient de tout à l'heure, mais c'est un peu. Voilà, c'est.
Oui, ben, moi j'ai pas signé un truc, mais enfin, je vais essayer de pas dire de choses qui pourraient mettre en danger mes collègues, en fait. C'est-à-dire que j'ai encore énormément de potes qui sont sur le terrain. Clairement, si je racontais trop de trucs, il y a peut-être certains gouvernements, s'ils écoutaient le live de ce soir, ils pourraient se dire tiens, mais en fait, telle ONG, c'est des connards, ils font de la merde, on va les dégager, ou voire on va les cibler, quoi. Si c'était des gens qui ont envie de faire du mal, quoi. Donc, comme j'ai des potes sur le terrain, je fais aussi un peu attention à ce que je dis, quoi. Mais pas nécessairement dans une question de secret professionnel, plutôt dans une approche de dire que je dis a un impact. Et donc, quelque part, je fais attention à ce que je dis. Voilà.
Oui, les mots, pour le coup, ont de vraies conséquences. Si chez nous,
Ah,
les conséquences sont faibles, chez eux, les conséquences sont très lourdes, quoi.
Attends, je vais faire juste une petite aparté pour vous illustrer quelque chose par rapport à ça. Je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Et en même temps, quand les caricatures sont sorties sur Charlie, quand Charlie a publié les caricatures et tout ça, avant l'attentat, la tension sur les expatriés en Afghanistan et pas que, hein, dans tous les pays plutôt de culture musulmane, plutôt de confession musulmane, ont augmenté d'une densité de folie. Donc, c'est-à-dire que on s'est retrouvé beaucoup plus en danger du fait des caricatures. Ça n'empêche pas que je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, mais comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on dit a un impact. Et nous, on l'a senti. Moi, j'étais en Afghanistan. Waouh, le changement, ça a été radical, quoi. Et les gens ne regardaient pas de la même manière, quoi. Et quand tu sais que tu risques ta vie à chaque fois que tu sors avec ta bagnole dans la rue, ouais, c'est tendu, quoi. C'est vraiment tendu, en fait. Donc ouais, je fais attention à ce que je dis parce que je sais que ça peut avoir un impact sur la vie des potes, quoi. Voilà.
Nickel. Justement, après, ça rejoint un peu l'horizon des objectifs des ONG, où Mira pose la question à la Croix-Rouge, par exemple, agissez-vous seulement sur le terrain pour réparer les pots cassés des guerres, ou bien essayez-vous également d'avoir un impact politique pour éviter des guerres?
Les deux. Maintenant, moi, après 9 ans de terrain, je dois dire que je pense qu'il n'y a pas d'humanitaire qui ne devient pas cynique après 10 ans de terrain, en fait. Tellement, on voit des trucs qui désolent et qui rendent fou, en fait. Ou qui a bah, qui ouais, qui rendent triste de voir que finalement il y a des décisions qui sont prises au niveau des États qui sont totalement contre-productives concrètement sur le terrain, quoi. Donc oui, on essaye de il y a un travail qui est fait de plaidoyer par énormément d'ONG qui font du plaidoyer pour justement essayer de résoudre des crises et des choses comme ça. Maintenant, les enjeux sont tels, faut pas être naïf, quoi. Quand il y a une guerre qui se déclare en Libye, s'il y a des gens qui pensent encore qu'on est allé en guerre en Libye pour la démocratie, enfin moi je comprends pas qu'il y ait des gens qui pensent encore ça, en fait. Voilà, typiquement. Qu'est-ce que peut faire une ONG contre un État qui a décidé de s'octroyer un accès à certaines ressources? Clairement, rien, en fait. Un gouvernement a pris une décision. Il va déployer son truc et voilà, quoi. Et point. Il va rien se passer d'autre, quoi. Donc en fait, moi j'ai un peu ça c'est mon côté un peu désillusionné, que finalement, on va principalement penser des plaies. Il y a un travail qui est fait de lobbying et de temps en temps ça porte ses fruits. Il y a quand même des lois qui ont été changées, qui ont été votées. On a interdit les projectiles à sous-munitions, etc. Maintenant, il y a des gouvernements qui ne signent pas ces traités, et donc qui continuent à les utiliser, par exemple. Mais finalement, le cœur du métier de l'humanitaire, c'est quand même de mettre des pansements sur des fractures ouvertes, quoi.
Toujours pareil, une autre petite question de Mira que je vais prendre avec la version résumée au niveau de la question, c'est à quel point les ONG s'entraident entre elles, pardon, des exemples de connexion. Et en fait, je pense que tu me diras si je me trompe, Mira, c'était aussi savoir s'il y a peut-être des mutualisations de ressources entre ONG, quoi, avec,
Oui,
je sais pas,
ouais.
secrétariat, la compta, etc., etc.
Complètement. Alors, pas trop secrétariat compta. La mutualisation la plus connue que je puisse partager, elle, c'est une ONG qui fournit un service de mutualisation. Ça s'appelle Atlas Logistique. Atlas fournit un service de mutualisation de services logistiques, stockage, transport, choses comme ça, pour des ONG locales, internationales, même pour les Nations Unies. Et ça marche hyper bien. C'est une ONG française créée dans les années 90, au moment de la guerre dans les Balkans. Et ça, c'est le, je dirais, le meilleur exemple de vraie mutualisation des ressources. Maintenant, il y a d'autres choses qui se mettent en place. On a ce qu'on appelle les clusters, qui sont des mécanismes de coordination d'ONG, et qui permettent finalement de s'assurer qu'on ne fait pas doublon. C'est-à-dire que tout d'un coup, sur le, je sais pas, sur le tsunami en Indonésie, que tu n'aies pas quatre ONG qui décident de fournir en vêtements les mêmes personnes. Voilà. Donc en fait, on va se coordonner à travers ce qu'on appelle un cluster, et les clusters sont souvent gérés ou co-gérés par les Nations Unies, qui est un petit peu leur rôle, quoi. Voilà.
Alors, on avait une. Vas-y,
Vas-y,
vas-y.
Azote. Vas-y, vas-y, Azote.
Ok, alors on avait une question de Madeleine Jack. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que vous êtes sous une forme quelconque de secret professionnel?
Ah, Azote, celle-là, elle était déjà passée. Il a
Oh,
déjà
pardon.
répondu.
Désolé.
C'est OK. J'ai vu une question qui est passée tout à l'heure de je ne sais plus qui, à propos du fait de trier les profils qui postulent au niveau du recrutement, pour savoir s'il y en a des gens qui, des services de renseignement qui rentrent dans les ONG. Et en fait, ben on peut pas. Enfin, je sais pas, si vous êtes là, peut-être que vous... Moi, je suis un fan du Bureau des légendes. Les mecs, si ça fait, ça fait des légendes, quoi. Donc, en fait, s'ils voulaient rentrer dans nos ONG, dans les ONG, ils peuvent, quoi. Et c'est pratiquement impossible à trier ce genre de choses, quoi. On peut pas savoir. Mais en fait, donc je peux imaginer qu'il y ait des gens dedans, mais finalement, on a quand même pas mal de contraintes dans notre mode de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est très pratique pour eux. Quand on écoute un peu les gens qui bossent dans ces milieux-là, finalement, on comprend que la partie renseignement, elle se fait pas en infiltrant quelqu'un au sein d'une ONG, elle se fait simplement en devenant pote avec quelqu'un de l'ONG, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin de l'infiltrer, il y a simplement besoin d'être très très bon copain avec un mec qui lui a l'information, et puis finalement gentiment lui faire raconter ce qu'on a besoin d'entendre, quoi. Voilà. C'est ça le risque, hein, pour une ONG, quoi. Et après, enfin, le risque, c'est ça, c'est que ça arrive et qu'après on va dire que des personnes au sein des autorités ou des groupes l'apprennent, et que derrière on soit accusé d'espionnage, quoi. Même si c'est pas nous qui espionnons.
Ça fait rejoindre une question qui est plutôt d'ordre de toujours pareil, de la sensibilité du terrain, de Nagasan. Êtes-vous accompagné d'une personne armée pour les détenus considérés comme dangereux, à qui vous parlez, et qui va en fait avec la question de Mira, quels sont les dangers du métier? Est-ce qu'éventuellement tu as peur et bon, demande de vous déranger qui, j'imagine, voilà, si tu peux nous dire.
Super, vous avez fait la transition sur la partie vie sur le terrain, zone sensible. Donc je vais vous raconter ça un peu. Il y a pratiquement aucune ONG qui soit gardée par des hommes en armes. Donc Quand on est sur le terrain, en fait, je vais vous donner plusieurs exemples. Un exemple que j'ai une mission que j'ai beaucoup aimée, c'est l'Érythrée. J'ai bossé pendant 15 mois en Érythrée. L'Érythrée, c'est un pays qui est hyper calme, en fait. Oui, il y a un dictateur, oui, il y a un service militaire et tout. Mais finalement, si les gens sont pas au service militaire, ils sont plutôt OK. Alors, ils gagnent pas trop d'argent, etc. Mais finalement, c'est un pays qui est très calme, c'est un pays qui est très agréable à vivre. Et là-bas, on n'avait pas de garde. Quand j'y étais, moi, on n'avait pas zéro garde, quoi. On vivait comme si tu vivais ici, quoi. Mon organisation louait une maison que j'habitais avec des collègues. Et voilà. Et en fait, on partageait, on avait chacun une piole. Et puis, on partageait la cuisine, notre salon. On invitait des potes des autres organisations. On invitait des diplomates. Voilà, c'était une petite communauté, parce que Asmara, la capitale de l'Érythrée, c'est tout petit, en fait. Je pouvais traverser la ville à pied dans la soirée. Toute la ville, pratiquement. En tout cas, on va dire le gros centre-ville, je pouvais le traverser à pied dans la soirée pour partir d'une soirée, rentrer chez moi, quoi. Ou à vélo, d'ailleurs, ça m'arrivait aussi de circuler à vélo, tellement c'est petit, et puis que c'est agréable, et puis qu'il y a très peu de voitures. Donc en fait, en Érythrée, on avait une vie hyper sympa. Je fais des soirées, ouais, avec des personnels d'ambassade. J'ai été invité plusieurs fois par l'ambassadeur américain qui payait son canon une fois par mois, en fait, et qui invitait pratiquement toute la communauté d'expatriés de la ville, quoi. Et on était quelques dizaines, en fait, dont nous, à l'ONG, dans l'ONG, quoi. Et donc là, ça, c'est une version de la vie. Et puis l'autre version, c'est l'Afghanistan ou la Libye, où là, par contre, on n'a pas de garde armée encore, mais on vit tous dans le même immeuble ou dans la même maison ou dans le même compound. Un compound, c'est 5-6 maisons qui sont entourées d'un mur avec une seule entrée, où il y a 3-4 gardes à l'entrée, mais qui sont des gardes qui ne sont pas armés, en fait, hein, qui sont juste là pour filtrer quand même les gens qui sont là. Et on est tous là. La plupart des maisons ont en fait un sous-sol qui sert de bunker. S'il y a des bombardements, s'il y a des attaques, s'il y a des tirs comme c'est arrivé, ou il y a des explosions très très proches, comme ça a pu arriver aussi, on nous dit, on se balade tout le temps avec une radio, en fait. On a tout le temps un handset, donc un talkie-walkie, et on l'a quasiment tout le temps avec nous. Et il est quasiment tout le temps allumé. Et s'il y a une alerte, c'est OK, rendez-vous dans le bunker, ou ouais, rendez-vous dans le bunker pour la plupart du temps quand il y a un truc. Ou alors il nous donne une information. Il y a eu une attaque sur l'ambassade américaine qui était à quelques centaines de mètres, à 400, 500 mètres à vol d'oiseau, quoi. Ça reste loin, par en bagnole, parce qu'il faut un peu slalomer, quoi. Mais voilà, à 500 mètres, il y a eu une attaque. Il y a un mec qui a un attentat suicide sur la gate, sur la porte de l'ambassade. Tout le monde reste chez soi, pas besoin de descendre dans le bunker, mais par contre, tout le monde reste chez soi, vous sentez plus, pas de mouvement, quoi. Et donc ça faisait partie, en Afghanistan, j'ai le souvenir d'être au petit-déj, et je bois mon café, et on entend... Et là, il y a les vitres qui font... Gling, 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 gling. 2 minutes après, même pas, on entend les hélicoptères américains qui passent au-dessus de la maison et qui s'envolent enfin, qui se dirige vers l'ambassade qui avait été attaquée, c'était l'ambassade américaine. Et voilà. Et ça, je sais pas, une fois par semaine, quoi. Une fois par semaine, un truc comme ça. On a eu des moments, les trucs que j'ai vécu, c'est au Burundi, en pleine nuit, tout d'un coup, ça commence à tirer, je me réveille, je sais qu'est-ce qui se passe. On entend les tirs et tout. Et là, je suis dans mon lit, assis dans mon lit, et j'entends les balles siffler. Et là, j'ai dit, ah, elles sont très très proches. En fait, je me suis allongé par terre. J'étais avec ma copine à l'époque. J'ai fait le tour de la maison en rampant pour vérifier que toutes les portes étaient bien fermées, que les grilles sur les portes étaient bien fermées et tout. Et en fait, j'ai appris le lendemain que c'est la police et un groupe une bande armée de bandits, mais genre bandits, quoi, les mecs qui braquent des maisons, des véhicules, des trucs comme ça, qui se tiraient les uns sur les autres, mais en fait, ils étaient chacun d'un côté de ma maison. Voilà, je me suis fait braquer par un mec avec un lance-roquettes à Kinshasa. Un mec qui faisait partie de la protection rapprochée du président. Et en fait, le convoi a débarqué juste devant moi au détour d'une rue. Et le véhicule de tête, il y avait un mec sur un pick-up avec un lance-roquettes, il m'a braqué, genre tu t'arrêtes, tu fais oui, bien sûr. Voilà. Et les risques, finalement, c'est quoi? C'est au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que c'est d'être dans la porte du parking d'une ambassade au moment où les talibans veulent l'attaquer. C'est d'être dans le véhicule, dans un véhicule, sur une route, au moment passer sur un IED, sur un engin explosif improvisé au bord de la route, qui n'était pas forcément destiné à notre véhicule, mais voilà, qui était destiné au convoi de véhicules américains qui se trouvait 2 km derrière, puis il y a eu une erreur et le véhicule de l'ONG saute sur le truc, ça arrive quoi. Et puis de temps en temps, on est pris pour cible. Et on n'a rien pour se défendre à part notre mission. Et les échanges qu'on peut avoir avec les groupes armés. C'est-à-dire que la Croix-Rouge est en discussion avec les talibans, avec la direction des talibans, tous les jours, pour s'assurer que quand on fait partir un convoi à l'autre bout de l'Afghanistan, on ne va pas se faire attaquer par un chef taliban qui a envie de nourrir sa famille, quoi. Qu'est-ce qui peut arriver? Oui, c'est principalement ces choses-là, en fait. Hein, c'est vraiment. L'autre truc qui peut arriver, c'est d'être pris pour cible parce que le groupe en face qui nous tire dessus a envie d'un geste politique, en fait. Il montre qu'ils existent. C'est souvent le truc principal. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas d'humanitaires qui ont été ciblés par un groupe armé, notamment, qui n'avait pas forcément une grosse réputation, et qui, parce qu'ils tuent des étrangers, des humanitaires, ou des locaux d'ailleurs, pas que des étrangers, en fait, ils arrivent sur le devant de la scène. Donc, c'est-à-dire que là, on va commencer à les écouter. Voilà. Et donc, ouais, j'ai pas mal de. J'ai des. Je connais. Enfin, j'ai des copains, j'ai des gens que je connais, plus ou moins des collègues qui sont morts comme ça, quoi. Voilà, être au mauvais endroit au mauvais moment. 2014, dans le Donbass. Bombardement sur une zone d'habitation avec des immeubles et tout. Bombardement qui tue des civils et des humanitaires. Voilà. C'est arrivé. Donc, voilà. Ça donne un peu une idée de la partie sécurité, en tout cas, zone sensible. S'il y a des questions.
Justement, j'en profite, je rebondis parce que ça rejoint en fait une question que pose OTNRV où il disait en fait, sans peut-être sans être aller dans le fond, mais comment s'est passée justement l'évacuation du personnel en Afghanistan et dans le cas de la précipitation, quel est on va dire, l'impact que les gouvernements ont sur vos actions? Ça digressait, je pense, parce que sinon c'est une question qui, à mon avis, peut entonnoir.
Ouais. Alors, moi j'ai vécu une évacuation en Afghan parce qu'on a été attaqué. On a un de nos bureaux qui a été attaqué à Jalalabad. Il y a un mec qui est rentré, qui a tué le garde, qui est rentré dans le bureau, qui a tourné, qui a tiré sur notre responsable de bureau là-bas, qui a essayé de faire le tour des autres bureaux pour essayer de tuer d'autres personnes et tout, puis finalement qui a trouvé personne, il s'est fait exploser au milieu du parking. Et à la suite de ça, on a pris la direction de l'organisation, a pris la décision d'évacuer quasiment 90% des employés de l'organisation, le temps de faire une évaluation sécuritaire, en fait. Donc on a été évacué, mais ça s'est organisé dans le calme, hein, parce qu'en fait, c'est pas une évacuation où t'es menacé avec un flingue sur la tempe, faut te barrer tout de suite, tu vois. Donc ça prend le temps, ça s'organise, ça se fait sous quelques jours. On a été d'abord évacué. Certains sont partis d'abord au Tadjikistan, qui est limitrophe avec l'Afghanistan, et parce qu'on a aussi des bureaux là-bas, donc des résidences, du monde pour nous accueillir. Et puis d'autres sont simplement rentrés chez eux, quoi. On a dit, bon, écoute, pour l'instant, vous rentrez chez vous, et puis on vous tient au courant par email de quand est-ce que vous revenez, quoi. Donc voilà, après. C'est rarement des décisions qui sont prises. Enfin, soit il y a un risque tout de suite, c'est-à-dire qu'on a l'information qu'on va être ciblé, ou alors il y a une attaque continue, mais ça arrive quasiment jamais d'avoir un truc qui dure suffisamment longtemps pour que ça engendre une évacuation dans l'urgence, quoi. Les évacuations dans l'urgence, c'est par exemple. Ça arrive quand c'est arrivé, je dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé, c'est quand même arrivé. Si par exemple, il y a, on peut imaginer là sur l'Afghanistan, les talibans qui reprennent l'Afghanistan, qui arrivent sur Kaboul, ils arrivent beaucoup plus vite que prévu. Bon, bah là, très rapidement, c'est OK. Là, on a 3 heures, vous passez chez vous, vous faites un sac de moins de 20 kilos, rendez-vous à l'aéroport, nous, à la Croix-Rouge, on avait nos propres avions. Vous me prenez un avion et vous partez au Tadjikistan, on organise un vol dans 2 heures, quoi. Donc voilà un peu voilà le genre de trucs qui peuvent se passer, mais ça reste extrêmement, extrêmement rare, quoi.
Et justement, une question de Fouca, qui est toujours dans la même veine. En cas de kidnapping d'un employé d'une ONG, qui paie la rançon? Le pays de la nationalité ou la victime, enfin de la victime, ou c'est l'ONG, pour juste un peu stipuler.
Moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas. Officiellement, il n'y a pas de rançon. Officiellement, il n'y a pas de rançon. Officiellement, c'est une négociation entre gens compréhensifs qui disent que il y a pas besoin de payer de rançon parce qu'en fait, vous desservez votre pays en kidnappant, enfin, votre cause en kidnappant quelqu'un qui est là pour aider la population que vous aussi voulez soutenir. Voilà le message officiel. Voilà. Après, concrètement, j'ai jamais été à ce niveau de discussion pour avoir l'information, et si je l'avais, je pense que je ne la passerais pas. Parce qu'en fait, annoncer haut et fort que c'est le pays qui paye, ou c'est si, ou qu'on paye tout simplement, c'est encourager les kidnappings. Pour vous
Après,
donner une idée, attends, parce que je te coupe encore,
vas-y.
pour vous donner une idée, au Burundi, une grenade. Ça vaut 5 dollars. Donc, si on. Ça vaut 5 dollars, la vie d'un humanitaire, elle vaut pas plus que ce qu'il a dans la poche en dollars. Et souvent, tout se paye sur le terrain comme ça, en dollars. Tu te balades rarement avec moins de 50 ou 100 dollars dans la poche. Donc, en fait, ta vie, elle vaut ça. Et l'investissement, il est assez intéressant, le retour sur investissement, 5 dollars la grenade, 100 dollars dans la poche de l'humanitaire, si c'est pas plus, hein, la plupart des temps c'est plus quand même. Il y a pas mal d'humanitaires qui aiment bien aller manger au resto et tout, ou qui vont faire des courses, hein, quand tu es à 2 dollars l'euro de PQ, il en faut un peu des dollars dans la poche quand tu vas faire des courses. Donc, il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin de rançon, je dirais, énorme en fait, pour faire du bise avec la vie des humanitaires. Et des fois, il n'y a même pas besoin de rançon parce que simplement, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un positionnement politique d'attaquer des humanitaires. Voilà.
Justement, une petite question, alors toujours pareil, qui est liée toujours finalement au terrain et à vraiment le côté la zone sensible. Ça pourrait être une question de Sky. Es-tu accro, pardon, à l'adrénaline? Et en question secondaire, est-ce que tu as des difficultés à te réadapter quand tu rentres après avoir, comme ce que tu me dis, avoir vu tout ça, quoi?
Eh ben, je vais dire que oui, ça crée une addiction. Moi, quand je suis rentré d'Afghanistan, alors, je suis rentré avec un stress post-traumatique, je suis rentré avec le fait que si j'ai passé toute une partie de ma mission à me réveiller toutes les nuits et à imaginer si notre campagne est attaquée, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me cache? Où est-ce que j'évacue? Comment je fuis? Comment je peux accéder au toit, etc. Je suis rentré d'Afghanistan, je me suis dit, putain, je ne sais pas me servir d'une arme, quoi. Si je devais me défendre ma vie, je ne saurais pas le faire. Donc on revient avec tout ça, quoi, avec ce bagage, avec ces grandes questions. Là. Et j'ai perdu le première partie de la question qui était.
Donc le CTB, si tu as répondu, c'était est-ce que tu es accro à l'adrénaline? Et en fait, tu as répondu aussi à la deuxième, c'était est-ce que tu avais eu des difficultés à finalement à te réadapter au retour? Donc ouais, c'est tout.
Alors, on peut élargir un peu, c'est que oui, ça crée une certaine. Ça crée une addiction parce qu'en fait, on est accro au risque, on est accro au fait d'avoir une position importante dans la société quand on est humanitaire. T'es humanitaire, tu vis à Bujumbura, tu vis à Kampala, tu vis à Nairobi, tu vis à Bangkok. Bon, Bangkok moins, parce qu'il y a énormément d'étrangers et tout ça, mais tu vis, je sais pas, à Yangon, en Birmanie. Bah en fait, t'as un statut social. Et donc, il y a un truc autour de ça, quoi. Et en plus, le danger, le risque créé, oui, est clairement génère de l'adrénaline, et l'adrénaline, c'est addictif. Donc oui, je rentre, t'es accro à l'adrénaline, c'est clair. C'est plus facile d'arrêter l'adrénaline que d'arrêter le sucre. Mais oui, on est accro à l'adrénaline, clairement.
Du coup, une question d'Oli qui nous permet en fait de passer, je pense, sur la population locale, l'impact et les effets. As-tu pu observer des actions d'une ONG qui, alors attends, bah, ça bouge. As-tu une, alors attends, je refais. As-tu observé des actions d'une ONG qui auraient des effets néfastes sur une des populations locales et qu'elle souhaite justement aider?
Oui. Je vais vous donner deux, trois exemples un peu simples, un peu rigolos. Allez, le premier exemple. Quand j'étais en Érythrée, bon, c'est même pas une ONG, hein, c'est UNICEF. Ils sont quand même carrés. Hein. Quand j'étais en Érythrée, on avait une problématique, c'est qu'on avait pas mal de gamins, entre autres, qui traversaient la frontière d'Érythrée pour éviter par exemple le service militaire, et qui finissaient dans des camps de réfugiés érythréens en Éthiopie. Ces camps étaient gérés pour la plupart du temps par donc le HCR, d'autres ONG, etc. Et dans ces camps travaillait UNICEF. UNICEF travaillait principalement avec les enfants, donc il s'occupait de ces gamins. Et entre autres, comme les gamins arrivent en Éthiopie, mais ils n'ont pas de famille là-bas, toute leur famille est en Érythrée. Et donc on leur dit, mais les gars, qu'est-ce que vous allez faire, quoi? Vous n'allez pas pouvoir rester là, t'as 10 ans, t'as des gamins de 10 ans hein, qui traversent la frontière avec des potes, quoi. Pour s'amuser des fois même. On leur dit, bah non, attends, ta famille est là-bas. Puis même les gamins, des fois, ils avaient juste envie de rentrer, en fait. Ils s'étaient amusés, voilà, mais en fait, ils ne voulaient pas vraiment rester, ils ne s'étaient pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, etc. Donc les gamins sont dans les camps et sont renvoyés en Érythrée. Quand on les renvoie, on leur dit, bon allez, tu rentres chez toi, puis on te filera une nouvelle paire de baskets, et puis. Un petit sac de bouffe pour tes parents, et puis un nouveau t-shirt, quoi. Un jour, ils ont eu la super idée dans le camp d'installer des PlayStation pour occuper les gamins. En une semaine, je crois que le taux de gamins qui traversaient la frontière, il a été multiplié par 5 ou 10. C'est-à-dire que le premier gamin qui est reparti en Érythrée pour voir ses parents avec ses baskets, son t-shirt et son sac, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a dit à tous ses potes, ils ont eu des PlayStation! Et là, il y a plein, plein, plein de gamins qui ont traversé la frontière. Mais la frontière, elle est minée. Donc en fait, il y a des gamins qui sautaient sur des mines parce qu'ils avaient juste envie d'aller faire de la PlayStation de l'autre côté, quoi. Donc voilà le genre de truc que j'ai pu voir. Et maintenant, je vais vous donner un exemple, non pas d'une erreur d'une ONG, mais de la réalité du terrain. C'est-à-dire, prison centrale de Kinshasa. La prison de Makala. Il y a des gamins qui sont arrêtés pour vol, par exemple, ou pour des trucs plus graves d'ailleurs. Gamin de 12 ans, 13 ans. Le gamin, il purge sa peine. Allez, c'est un vol, il purge une petite peine de 1 an, je sais pas, un truc comme ça. On lui dit ben, voilà, tu vas être libéré, quoi. Et le gamin, il veut pas sortir. Il veut pas sortir de la tôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tôle, il a à manger au moins une fois par jour, voire deux. Parce que dans la tôle, il a accès à une école. Il y a une ONG qui est là pour lui fournir, enfin, pour faire de l'éducation, pour amener à manger. Il y a une ONG qui l'habille. Il y a une ONG qui lui fait faire des activités épanouissantes. Et quand il sort, en fait, chez lui, quand il revient chez ses parents, ben, il va pas à l'école. En fait, l'école, elle est loin et qu'il n'y a rien dans l'école. Et que c'est pas terrible, en fait. Et qu'il n'y mange pas. Ses parents, ils n'ont pas à manger pour toute la famille. Et puis voilà, il perd en fait tous les bénéfices qui sont fournis aux enfants dans les prisons. Donc oui, le gamin, il est en prison, mais en même temps, il joue au foot une fois par jour avec ses potes, il mange, etc., etc., etc. Et donc les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas sortir, ou alors quand ils sortent, Et ben, ils braquent, ils font des conneries pour retourner en tôle. Voilà un peu deux exemples de trucs que j'ai pu observer, quoi.
En effet, la prison qui devient un lieu de, on va dire, presque de sécurité plus qu'autre chose. Justement, une question de Génista qui, justement, toujours avec un trait avec la population locale. Est-ce que ça t'arrive en général de sympathiser avec les locaux dans le temps perso, par exemple d'aller boire un café, faire du sport, etc. Ou tout simplement, est-ce que c'est déconseillé et que tu vis plutôt uniquement en tant qu'expat?
Les deux, c'est pas déconseillé. En fait, tu vas vivre. Il y a un peu les deux. Ça dépend des pays, ça dépend des contextes. Et en fait, j'ai envie de dire, ça, je l'ai fait. J'ai souvent eu des relations. J'ai des potes qui de pays dans lesquels j'ai bossé. La plupart de ces gens-là, de ces potes-là, on était potes parce qu'en fait, ils avaient un niveau de vie qui leur permettait aussi de vivre des trucs avec moi. C'est-à-dire de sortir le soir, d'aller boire une bière ou des trucs comme ça. Alors, je suis aussi sorti avec des collègues, par exemple, à qui j'ai payé des coûts et tout ça, mais ils seraient peut-être pas sortis si c'est pas moi qui payais un verre, quoi, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer de se payer une bière au bar ou un truc comme ça. Donc oui, j'ai encore des liens avec certaines personnes qui sont avec certains amis en Érythrée, avec au Burundi, en Afghanistan, nos collègues, voilà, en Libye aussi. Donc oui, on crée des liens et avec soit des collègues, soit des gens qu'on rencontre via différents canaux, clairement. Et y a même des couples qui se forment, hein, ça arrive très 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 souvent, quoi. Très très souvent.
Question d'Olifax. As-tu
Oui.
constaté des effets positifs ou négatifs du retrait d'une ONG sur une zone, enfin, ou d'une zone plutôt?
Pour moi. C'est un peu délicat comme question. À court terme, c'est plutôt des effets négatifs. C'est-à-dire que quand il y a une ONG, il y a un besoin, en fait. Enfin, il y a souvent un besoin quand il y a une ONG. L'ONG, elle est là, elle répond à un besoin. Des fois, les ONG, au bout d'un moment, quelque part, c'est pas que le besoin il est entretenu, mais l'ONG, elle peut être. Pratiquement, elle peut auto-alimenter le besoin. Parce qu'elle est là, et parce qu'elle est là, elle attire des gens qui ont besoin, etc. Donc quand une ONG sortir, des fois, ça peut faire diminuer un peu des problèmes de tension locale, etc. Mais la plupart du temps, en fait, elle enlève une prestation aux populations locales, en fait. Et la plupart des prestations que fournissent ces ONG, c'est quand même des prestations de première nécessité, c'est-à-dire que c'est la bouffe, le toit et la santé, quoi. C'est principalement ça.
Deux autres petites questions qui sont un peu, c'est juste ça revient un peu par rapport au terrain. On avait une petite question qu'on a oubliée de Nagasan qui demande si une personne d'une ONG est tuée malheureusement pendant une opération, quelles sont les procédures?
Les procédures, c'est souvent qu'on va figer les opérations. Il y a souvent une évacuation du staff expatrié pour éviter que, qu'en fait, pour éviter les risques, pour diminuer le risque. Et ensuite, il y a une analyse géopolitique, sécuritaire de la zone, du secteur, voilà, pour s'assurer est-ce qu'on peut bosser en sécurité ou pas. Ensuite, après, enfin, plus concrètement, quelqu'un qui est tué, ben, ça dépend, mais en gros, on va évacuer son corps, on va prévenir la famille. Enfin, voilà, la gestion comme si ça arrivait ici, hein. C'est un peu plus compliqué, mais ça se passe comme ça, quoi.
Ok, c'était pour ça, c'était juste, on en revenait. Et pour une question toujours pareille, qui est liée plutôt toujours pareille, population locale, impact et effet, question de Fouca. Il y a une quinzaine d'années, quand je parlais avec des étudiants d'Afrique centrale, tous me disaient que les armes étaient acheminées par des convois humanitaires. Est-ce toujours le cas?
Non, j'ai plus entendu ce genre de truc depuis très 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 longtemps. Oui, il y a des rumeurs qui ont tourné sur certaines ONG il y a 20 ans, 30 ans, qui ont fait les choux gras de quelques journaux, trucs comme ça, où tu avais des ONG qui avaient eu. On va dire qu'on avait accusé de servir les intérêts de certains services de renseignement. Ça a été plus ou moins prouvé pour certaines, effectivement, mais c'est plus, je crois pas que ça a été le cas à nouveau récemment. Il y a eu un truc sur la Libye avec la Croix-Rouge internationale d'ailleurs, mais qui est un peu trop gros pour être pris tel quel quoi. Et ça me paraît tellement gros d'acheminer des armes nom d'un truc pour négocier un accès ou un truc comme ça que le risque de le risque dans cette situation il est tellement énorme pour l'ONG et pour les populations et tout ça qu'en fait je crois pas que l'ONG le prendrait quoi.
Du coup, il y a plus. Après, il y a d'autres questions, mais qui étaient plutôt liées au financement. Est-ce que tu veux faire un peu aborder justement le sujet des ONG et de
Ouais,
financement qui participent et les différents buts et on regroupera quelques questions comme ça.
ça marche. Et ben en fait, financement, donc ça va dépendre pas mal des ONG. Elles n'ont pas toutes les mêmes modes de financement. On va dire qu'il y a premier financement typique, c'est le financement institutionnel. Le financement institutionnel, ça va être par exemple Toyota, à qui on achète des voitures et qui aussi défiscalise en finançant des ONG. Financement institutionnel, on peut avoir les États. Les États financent à travers leur ministère des Affaires étrangères, à travers l'Agence française de développement, à travers USAID ou DFIP, la branche britannique du développement du ministère des Affaires étrangères britannique. Donc ça, c'est plutôt les bailleurs, ce qu'on appelle les bailleurs institutionnels, et l'Union européenne aussi est un gros bailleur. Voilà. Et puis, après, il y a des financements particuliers, donc des particuliers, des personnes. Dedans, je vais mettre aussi des fondations qui fonctionnent un peu comme une personne dans la manière dont ils gèrent leur financement. Et en fait, ça fait des financements très, très différents. C'est-à-dire que le financement de monsieur et madame Michu, lui, il va servir de manière beaucoup plus flexible l'ONG, alors que le financement d'un État ou bon, Toyota moins, normalement Toyota, ils sont quand même assez flexibles, mais ECHO, donc la branche humanitaire de l'Union européenne, les États-Unis, quand ils financent ce qu'on appelle de manière earmarked en anglais. Ça veut dire qu'ils te donnent de l'argent, mais ils te disent où tu dois le dépenser. Donc tu n'as pas le choix avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, allez, je peux le donner, je pense que j'ai pas un impact énorme là-dessus, mais c'est déjà arrivé que les Américains fassent une boulette dans la guerre en Irak. Et que 2 jours après, le département d'État appelle la Croix-Rouge en disant: Ouais, on a 250 000 dollars. Alors par contre, il faudrait les mettre en Irak et puis à Fallujah, quoi. Hein, parce qu'en fait, c'est important quand même, Fallujah. Donc, ce serait bien que vous dépensiez de l'argent, peut-être même plutôt sur la rééducation, les personnes blessées par les mines, les explosions, les trucs comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle du earmarked, donc de l'argent qui sera uniquement, voilà, qui sera pas flexible dans son utilisation. Alors que les 30 euros mensuels de Madame Michu, ben en fait, tous les Michus du monde qui donnent de l'argent à MSF, ils spécifient pas où est-ce que MSF va utiliser l'argent. La plupart d'entre eux, finalement, sont très, ils s'en foutent à partir du moment où ils font confiance à MSF de faire la meilleure chose possible avec cet argent. Dans ce cas-là, ça donne à MSF une vraie flexibilité sur là où ils peuvent déployer leurs programmes. Parce que la Croix-Rouge, qui elle est énormément financée de manière institutionnelle, eh ben, elle a moins de flexibilité. Alors elle en a quand même, parce qu'elle a quand même des donateurs privés, etc. Mais il y a énormément de fonds qui ont une certaine limite dans la destination des opérations. Voilà, donc ça change vraiment les choses. Et il y a donc en fait une ONG qui développe à fond les donations privées s'offre une vraie indépendance. Et ça, c'est hyper important. Donc si vous voulez des ONG indépendantes, bah, vous choisissez des ONG qui reçoivent très 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 peu de fonds institutionnels, en fait, et étatiques surtout pas. Et là, vous avez des ONG qui ont vraiment une marge de manœuvre à bloc, quoi. MSF, si demain ils veulent gueuler sur la table, la seule chose qu'ils perdent, c'est l'accès. Ils ne perdront pas d'argent. S'ils veulent taper le poing en disant vous faites des conneries en Ukraine, et quand ils le font, ils perdent pas d'argent. Si la Croix-Rouge gueule, ça arrive très très rarement parce qu'elle favorise plutôt le dialogue, elle favorise plutôt la négociation, ben, elle peut perdre des fonds. Par exemple, alors, c'est pas arrivé, mais je pense que c'était trop gros. Mais quand les rapports des visites de Guantanamo ont fuité dans la presse, les rapports donc établis par la Croix-Rouge, bon, le département d'État américain aurait pu dire vous avez déconné, on vous coupe une partie des ronds. Mais je crois pas que ça a eu lieu parce que ça aurait été trop gros, quoi. Mais ça peut arriver, quoi, ce genre de choses. Donc voilà un peu au niveau financement, c'est très particulier, c'est justement ça, c'est très important, c'est de bien différencier dans les ONG celles qui fonctionnent principalement à travers des financements institutionnels de celles qui bossent quasiment que avec des dons privés. Parce que l'impact n'est pas le même, parce que leurs capacités ne sont pas les mêmes. Et MSF, Médecins du Monde, ACF, il y a pas mal, ouais, il y a quand même, peut y avoir aussi des financements éco, je crois. Mais voilà, je sais que, enfin moi, celles qui pour moi sont est un peu le leader là-dedans et qui a une vraie notoriété pour cette indépendance, c'est MSF, clairement. Voilà, sur les financements. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, il y a quelques questions. Alors, il y avait justement, tu as répondu, je pense, largement en partie à la question de Mira qui posait, parle un budget, d'où vient l'argent, quelles sont les proportions dons-aides, qui fait les plus gros dons et des points de commun entre les ONG. Donc, je pense que tu as répondu pour le budget, d'où vient l'argent. En fait, ouais, je pense que c'est la continuité de la question de qui fait finalement les plus gros dons. Est-ce que c'est des entreprises? Enfin, voilà, qui fait les plus gros dons et des points communs entre les ONG? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Les plus gros dons, le plus gros donateur, c'est les États-Unis. Donc ils s'offrent, on va dire, ils s'offrent un peu de contrôle, ils s'offrent aussi un petit peu de bonne image par rapport à ça. Ensuite, on a grosso modo, ça doit être ECHO, donc l'Union européenne. Ensuite, les Scandinaves, les pays scandinaves donnent souvent de manière très coordonnée entre eux et ils sont des gros donateurs. Ensuite, je sais pas, la deux têtes comme ça, c'est difficile. Mais après, ben, les pays européens entre eux, enfin respectifs, il y a des pays asiatiques qui sont des bons donateurs. Je disais tout à l'heure, la Croix-Rouge coréenne, c'est à elle seule à 2 milliards de budget. Donc elle fait des financements d'ONG à bloc, quoi. Parce qu'en fait, alors, bon, quand je dis ça, c'est un petit peu biaisé parce que y a certaines Croix-Rouges, la Croix-Rouge coréenne, elle peut avoir par exemple des opérations, des programmes à l'étranger, mais ces 2 milliards de budget, c'est plutôt en interne. Hein, parce que j'imagine que la Croix-Rouge coréenne, par exemple, c'est elle qui gère tout le système d'ambulance en Corée. C'est aussi pour ça qu'ils ont des gros budgets. Donc ça donne une image un peu faussée. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 milliards pour des opérations à l'étranger. Voilà. Pour les ratios, je n'ai pas d'informations. C'est très difficile. Et je ne suis pas assez calé là-dedans pour
T'inquiète,
pouvoir.
T'inquiète pas de soucis, c'est parce que je me suis
Oui.
posé au travers de la question. Toujours, de toute façon, dans la continuité de la question, mais toujours de Mira, le financement est-il transparent et consultable par le public ou ça dépend peut-être aussi des ONG?
Ouais, je crois que ça dépend des ONG. Je pense, par exemple, je pense que pour beaucoup, pour les ONG françaises, il me semble que c'est public. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet et vous googlez bilan association MSF, à mon avis, vous allez trouver des trucs. Pour les ONG étrangères, c'est moins sûr. Parce que ça dépend de la législation dans leur pays d'origine. Et ensuite, c'est possible que pour certaines ONG, ce ne soit que les donateurs qui reçoivent le bilan, qui aient accès. Des fois, ça peut être intéressant de filer 10 balles juste pour avoir le bilan, par exemple. Si ça vous intéresse et que vous voulez vous poser la question, il faut vérifier. Mais à mon avis, l'information, elle est trouvable. Et des fois. Ça peut être, enfin, c'est possible de poser la question à une ONG, de les contacter leur disant, je sais pas, hein, admettons Save the Children Angleterre, voilà, les contacter en disant, voilà, je serais intéressé à vous donner, mais si je vous donne de l'argent, est-ce que je reçois le bilan de l'année dernière tout de suite ou pas? Est-ce que c'est public? Et ils peuvent, des fois, ils donnent. Hein. Enfin, je veux dire, ils donnent la forme, en tout cas, si on pose la question, je pense qu'on a une réponse, quoi. Et j'imagine que si on donne de l'argent, on a le bilan. Et donc on a la répartition, par exemple, des dépenses. Est-ce que l'argent qui est donné à l'ONG, elle est dépensée à quoi? Est-ce que combien de cet argent sert à faire du marketing pour récolter des fonds? Par exemple. Cette question est toujours hyper intéressante. Mais j'ai pas la réponse, ça dépend des ONG, etc. Mais il y a une grosse partie des fonds, grosse, pas la majorité, hein. Mais il y a une bonne partie des fonds qui sert à autofinancer les fonds par du marketing et de la com.
Malheureusement, on n'en doute pas. Question de Melk qui nous demande en fait, as-tu été confronté à des problèmes de corruption dans le sens où des fonds importants sont alloués pour aider un État, mais en bout de chaîne, sa population ne reçoit rien ou pas grand-chose?
Ouais. Non, pas trop de ce niveau-là en fait. Ces genres de problématiques de corruption, c'est pas trop à mon niveau. La corruption, c'est plutôt nous la corruption plutôt de l'ordre de le responsable logistique qui fait des fausses factures pour récupérer des thunes, quoi. Ce genre de choses, ou le fournisseur qui double les factures ou qui grossit ses factures parce qu'il est en contact avec le collègue qui s'occupe des achats et qui double les factures, puis le collègue des achats récupère une partie des thunes à côté. Ça arrive, oui, régulièrement et ça c'est fortement. Comment dire C'est devenu de plus en plus public et donc en fait les ONG ont été obligées d'agir de manière très forte récemment, ces dernières années. Et depuis 5 à 10 ans, en fait, enfin surtout depuis 5 ans, là, il y a eu un gros, gros tournant de vis qui a été mis sur ces choses-là, avec beaucoup plus de contrôle, etc., quoi. Maintenant, il y a des choses qui sont de notoriété publique. Par exemple, tu sais que si tu veux bosser en Somalie, tu es obligé de donner une partie en nature, en argent de ton programme au chef de guerre si tu veux pouvoir bosser en Somalie. Si tu veux aider les populations somaliennes, faut lâcher un bifton au chef de guerre. Sinon, tu bosses pas, en fait. Voire, ils vont te dire, ouais, viens bosser. Puis ils te kidnappent. Ou ils te butent. Ça, c'est pratiquement pour tout le monde, je crois. Et juste pour revenir, parce que ça me traverse l'esprit, tout à l'heure, il y a eu la question de savoir, est-ce que vous avez des gardes armés? C'est arrivé. Deux fois, je crois, dans l'histoire de la Croix-Rouge, d'avoir des escortes armées. Une fois, c'est en Tchétchénie. Et une deuxième fois, c'est en Somalie. Je sais pas si dans quel ordre. Mais de tête, c'est ces deux fois-là que c'est arrivé. Et en Tchétchénie, entre autres, parce qu'on a perdu six collègues qui se sont fait assassiner là-bas. Par les Russes, on pense. assassinés dans leur lit. Hein. Les mecs sont arrivés au silencieux, quoi. Ils sont arrivés dans le bâtiment, ils ont ouvert les portes, ils ont tiré sur les personnes qui dormaient. Et ils sont repartis aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés, quoi. Donc, à la suite de ça, on a eu des escortes armées, etc. C'est tendu. C'était vieux, hein, c'est vieux, c'est 96, je crois.
Ça me fait penser, il y a une question qui, clin d'œil à Sky, où il pose
Ouais.
la question de combien tu gagnes, mais ça me fait penser, moi, outre,
Ah
enfin,
oui,
tu
ça c'est
réponds si
intéressant.
tu réponds si tu as envie, mais ça me fait penser,
Ouais.
moi, à une autre question qui est liée à ça, c'est que
Okay.
quand, pour le coup, vous êtes payé, est-ce que, du coup, vous êtes payé, j'imagine, peut-être avec de la ressource locale, c'est-à-dire avec des billets, et que, du coup, vous gardez peut-être là-bas
Non.
physiquement, ou est-ce que c'est un truc un peu classique comme chez nous, où tu as un compte en banque et que tu peux
Ouais.
permettre? Comment ça marche, ça?
Ouais, super question ça. En fait, alors, il y a deux choses. Je vais d'abord expliquer les systèmes de salariat, en fait. En humanitaire, aujourd'hui, on est pratiquement tous salariés. Hein. Il n'y a quasiment plus d'ONG qui emploie des bénévoles. Enfin, si, la petite ONG locale, etc. Si vous avez une ONG, vous voulez partir faire de l'humanitaire et vous avez une ONG qui dit tu payes ton billet, c'est vraiment une toute petite ONG, quoi. Une ONG digne de ce nom, aujourd'hui, elle paye ton billet, quoi. Parce qu'elle cherche des professionnels. Et donc elle t'embauche. T'as un contrat de travail, en fait. Et donc tu as un contrat de travail. Par exemple, aujourd'hui, tu travailles aujourd'hui pour MSF, tu es embauché MSF France, on va dire. Tu as un contrat de travail français qui te permet de travailler à l'étranger. Et donc tu vas toucher un salaire en France. Et tu vas toucher, dans le pays où tu bosses, deux choses. Tu vas toucher un per diem, qui est en fait une prime de vie qui te sert à vivre sur place. Et ce per diem, en fait, c'est un. Donc, par exemple, si je prends un poste de logisticien, tous les logisticiens de grade 10 chez MSF vont toucher le même salaire. Par contre, en fonction du pays où ils vont vivre, ils ne vont pas toucher le même per diem. Parce que celui qui vit à Kinshasa ne touchera pas le même montant que celui qui vit à Bangkok. Parce que le coût de la vie à Kinshasa, il est peut-être 3 ou 4 fois plus cher que celui de Bangkok. Voilà. Ce qui veut dire que quand tu es sur place, tu touches le per diem. Et la deuxième chose que j'allais dire, c'est une prime souvent donc de hardship. C'est-à-dire que si tu es dans un contexte très dangereux, tu vas toucher des sous aussi. Et ça, c'est des trucs. Alors le hardship, il sera payé sur le salaire. Mais par contre, il est dépendant du pays où tu bosses. Et donc ton salaire, il est payé dans ton pays d'origine, quoi. Tu as un compte en banque en France, en Espagne, en Angleterre. Tu le touches là. Et sur place, tu vis avec ton per diem, en fait, plutôt. Si tu as besoin d'avoir une avance sur salaire sur place, c'est possible. Tu as le droit, tu vas à la caisse de l'ONG où tu bosses, au bureau de la comptabilité, et les mecs, ils peuvent te lâcher. Tu peux faire une avance sur ton salaire, je sais pas, même 2 000 $ des fois. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai eu un coup de tête un jour, je me suis acheté un tableau, quoi. Un énorme tableau qui fait 3 mètres par 2 mètres. Je l'ai roulé dans un tube et puis je l'ai ramené et il m'a coûté une fortune. Bref. Donc tu peux sortir de l'argent là-bas pour pouvoir vivre, en fait. Et voilà. Maintenant, les salaires, ça dépend des ONG. Parce qu'en fait, les ONG vont baser leur salaire sur le coût de la vie du pays d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'une ONG norvégienne, à la base, elle est là, elle va principalement employer des Norvégiens en tant qu'expatrié, parce qu'elle est norvégienne. Et donc, le Norvégien qui bosse pour l'ONG norvégienne, quand il rentre chez lui, il faut qu'il ait un salaire qui lui permette de vivre. Et peut-être qu'il a même sa famille qui reste derrière lui. Il faut qu'il puisse faire vivre sa famille. Et donc, ce Norvégien, il va toucher un salaire norvégien. Le Français, il va toucher un salaire français. Le Suisse, il va toucher un salaire suisse. Tu bosses pour une ONG suisse, tu gagnes beaucoup mieux ta vie. Si tu vis très très peu en Suisse, que tu passes quasiment toute ta vie sur le terrain, eh ben tu gagneras plutôt très bien ta vie, puisqu'en fait le salaire suisse étant très très élevé, quoi. Et donc les salaires, ça peut varier quasiment du simple au triple, quoi, en fonction des ONG. Et après, tu as les Nations Unies, où là c'est encore différent, c'est des salaires qui sont quand même assez élevés, et en plus qui sont qui ont un taux d'imposition assez faible, en fait, qui est prélevé en amont. Et donc voilà. Et vas-y, et je vais vous sortir le petit truc un peu funky, c'est qu'en fait, t'es français, tu bosses pour une ONG. Quand tu es déployé à l'étranger, si tu vis plus de 6 mois hors de France, tu n'es plus résident fiscal en France. Donc en fait, t'es pas prélevé, enfin la France te considère pas comme résident fiscal. Donc elle va pas te prélever de trucs, parce que de toute façon, tu n'es pas en France, quoi. Si tu t'inscris à l'ambassade en plus à Kaboul, ben t'es résident à Kaboul, quoi, en gros. Donc, logiquement, dans la pure logique, bah, t'es à peu près censé. Alors là, c'est un peu particulier. Une ONG si t'es employé par une ONG française, ils peuvent encore t'étiller. Mais admettons, t'es employé par une ONG norvégienne, t'es français, t'as même un appart en France, mais tu passes 11 mois de l'année à chaque année à Kaboul et ailleurs. Bah, en fait, tu ne payes pas d'impôt en France, parce que t'es jamais là. Et tu dis que t'es établi hors de France, tu justifies ça avec une inscription à l'ambassade. Et en fait, comme tu passes des missions plutôt, la plupart du temps, on reste quand même pas très longtemps dans les pays, ben en fait, le gouvernement afghan va pas te suivre pour essayer de te taxer. En plus, tu es un humanitaire, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc en fait, la plupart du temps, tu payes pas d'impôts, quoi. Parce que tu fais 1 an en Afghanistan, tu vas pas déclarer au ministère des Finances afghan que tu touches un salaire en France, sur ton compte français, par une ONG norvégienne, mais que tu vis en Afghanistan, c'est trop compliqué pour eux. En fait, puis toi, tu sais que tu n'as pas envie de les embêter avec ça. Donc, tu vas pas voir les Afghans. Puis après, tu partiras en Ouganda, la même chose, etc., etc., etc. Quand tu rentres, bah, en fait, t'as pas payé d'impôts. Ça, c'est une ONG norvégienne. Une ONG française, c'est plus compliqué parce qu'en fait, une ONG française va te dire bah, on te paye en France, tu touches un salaire en France, t'es un employé français, prélève-moi la source. Donc là, t'es quasiment sûr de te faire prélever. Mais voilà, donc il y a un peu des jeux comme ça. Alors, ça a été le cas en fait énormément pendant très 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 longtemps des humanitaires qui font gaffe à pas trop rentrer chez eux parce que sinon ils vont payer des impôts. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu des accords entre ONG qui se sont dit bon, on va arrêter de déconner là, on va pousser un peu les trucs. Et donc, il y a beaucoup d'ONG qui sont mises d'accord pour prélever à la source les impôts en disant vous êtes des salariés dans l'ONG française. On vous prélève, ou européenne, en tout cas ONG européenne, on vous prélève, on redistribuera ça à vos pays d'origine, et on vous fera un certificat comme quoi vous avez été prélevé de vos impôts, quoi. Et puis comme ça, c'est calé, quoi. Voilà. Donc voilà un peu pour la partie, en tout cas, salariat et compagnie.
Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui en profite de rebondir. Juste une question avant de passer sur celle de Mira. En fait, de ce que tu dis, est-ce que ça ne crée pas justement la différence entre ce que tu disais, entre l'humanitaire qui est salarié suisse, l'autre qui est norvégien, enfin bref, le français, ça ne crée pas des tensions entre vous? Parce que c'est toujours pareil, le point de l'aspect finance peut provoquer ce genre de peut-être éventuellement de conflit, ou pas plus que ça, parce que finalement, vous êtes dans le monde humanitaire et point barre.
En fait, ça crée pas de tension, ça crée des classes sociales. Tu sais, quand tu es sur le terrain, que ben, si tu veux, si tu bosses pour la Croix-Rouge internationale, donc contrat suisse, tu bosses pour les Nations Unies, peut aller te permettre d'aller bouffer dans le meilleur resto de la ville. Tu sais que tu verras jamais quelqu'un d'MSF. Voilà. Et voilà, et clairement, si t'as envie de gagner mieux ta vie, tu bosses chez MSF aujourd'hui, bah, tu vas essayer de tout faire pour passer au CICR ou aux UN. Parce que si ton objectif, c'est de mieux gagner ta vie, bon, tu vas simplement aller changer changer de boutique, quoi. Maintenant, c'est établi comme ça a d'autres avantages. Aujourd'hui, moi, je bosse pour une ONG française, alors je gagne beaucoup moins bien ma vie qu'avant. Par contre, j'ai 9 semaines de vacances par an parce que je rattrape mes RTT. J'ai mes 5 semaines de droit français, plus mes RTT, ça me fait 9 semaines par an. Et comme j'ai une gamine, bah, je suis bien content d'avoir du temps à passer avec elle, en fait. Et c'est un choix de me dire, bah, je bosse, je fais mes 39 heures, alors que dans les autres ONG, la plupart du temps, je faisais 50-60 heures par semaine. Je gagnais mieux ma vie, mais par contre, je me tuais à la tâche, quoi. Et je voyais pas ma gamine. Donc voilà. C'est des choix différents. Après, sur le terrain, oui, ça se ressent pas énormément, à part un peu sur ce côté un peu particulier, on va dire, de classe, mais finalement, c'est accepté. Et puis les gens, ils font le choix, c'est que c'est pas les mêmes boîtes non plus. Hein. Quand tu bosses pour MSF, tu bosses pour MSF parce que tu as envie de bosser pour MSF, quoi. Parce que ça t'appelle, quoi. Que le mandat d'MSF, il te plaît. C'est ça aussi.
Alors, justement, une question de Mira. J'entends parfois ce discours très critique vis-à-vis des ONG. Les ONG ont besoin de problèmes pour exister et être financées. Elles sont financées par ceux-là même qui créent les problèmes, donc elles traitent les symptômes des problèmes de manière inefficace plutôt que traiter les causes, en gros. T'en penses quoi? Ça dépend des ONG?
Non, moi je pense qu'en fait, c'est clair qu'on traite on traite que des problèmes, que les symptômes, pardon, on traite les symptômes, mais pas le cœur du problème. Pourquoi? Bah parce que c'est ce que je disais au début, c'est que le cœur du problème, si c'est le cœur du problème, c'est l'accès aux ressources d'un pays par d'autres pays, t'as beau être MSF, la Croix-Rouge internationale ou quoi. Aucun bras de levier, quoi. T'as aucun bras de levier. Le droit international humanitaire aujourd'hui, qui est censé réguler la marche des opérations de combat, etc. Si demain il y a un État qui juge stratégiquement important de marquer le coup en allant taper sur des humanitaires, en allant hacker des humanitaires, etc., il le fera. Il en a rien à branler, tu vois. Si l'objectif final, c'est l'énergie, qui est souvent quand même, ou les ressources minières, par exemple, c'est pas une ONG qui va résoudre le conflit en Ukraine. Hein. C'est pas ça. Si t'as d'un côté, y a un mec que j'aime beaucoup. Alors ça n'a rien à voir. Je digresse un tout petit peu, mais ça donne un truc très. Il a une phrase, enfin un discours que je trouve très très intéressant. C'est un mec qui s'appelle Simon Sinek. C'est une sorte de coaching, d'accompagnement de manager, d'entreprise et tout. Et lui, il écrit un bouquin qui s'appelle The Infinite Game, le jeu infini. Et il dit dans le monde, il y a deux sortes de jeux. T'as le jeu fini et t'as le jeu infini. Un jeu fini, c'est deux joueurs qui fonctionnent avec des règles fixes, et à la fin, il y a un gagnant, un perdant. Le jeu, il se termine, quoi. Un jeu infini, c'est un jeu, en fait, les deux joueurs, ils jouent pas pour gagner, ils jouent pour entretenir le jeu. Et en fait, la guerre, c'est souvent ça. C'est-à-dire que dans la guerre, tu peux avoir des gens, des acteurs, des protagonistes de la guerre qui ont le souhait de gagner, et il y en a d'autres qui jouent peut-être à la guerre, pas pour gagner, mais parce que ça leur est utile que la guerre existe. Et en fait, si tu regardes bien la géopolitique, eh ben, c'est intéressant de se poser la question de savoir, et je ne dis pas qu'on aura la réponse à chaque fois, mais est-ce que tel protagoniste dans telle guerre, il joue un jeu fini ou il joue un jeu infini? Est-ce qu'il veut gagner la guerre ou est-ce que l'existence même de la guerre lui est utile. Et dans ce cas-là, la question que Mira pose là, mais en fait, si tu la regardes sous ce prisme-là, tu vas te rendre compte que l'humanitaire, lui, c'est un pion au milieu du jeu, quoi. L'humanitaire, il est là, on lui donne des ronds, on lui dit tu vas panser les blessés, il va panser les blessés, quoi. Mais le jeu global, l'échiquier total, finalement, ça se joue à un autre niveau et ça se joue peut-être dans un jeu infini. On n'est pas sûr que ce soit un jeu fini. Donc en fait, tu n'es pas sûr que tu puisses finalement arriver à la fin. Ce qui veut dire que essayer de résoudre le problème, c'est penser qu'il y a une fin au jeu. Mais peut-être qu'il n'y en a pas.
Alors là, justement, on est bon. Le sujet du financement est entre guillemets clos, je pense. C'est là, on est plus sur d'autres questions qui continuent à être un peu méta. Alors, une petite question. Est-ce que, comme il est 23 heures, est-ce que j'en profite aussi pour poser la question à la communauté? Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu avec les questions ou est-ce qu'on clôture le livre blanc pour le. Je demande aussi la question à. à nos enregistreurs préférés, à Prali et Azote, savoir si les bots continuent toujours à bien fonctionner, qu'il n'y a pas de souci, ou est-ce qu'on continue? Juste, ça, c'est une petite interlude très rapide. C'est une question pour Prali et pour Azote, juste très très rapide.
Pour ma part, ça fonctionne toujours.
Prali aussi, donc on peut continuer?
Ouais, bah c'est bon pour moi aussi. Hein.
Allez, bah écoute, dans ce cas-là, feu. Alors, justement, en fait, il y avait la question de Mira qui était dans la continuité, justement, de sa question. Comment traiter la racine des problèmes, du coup? Et du coup, c'est quoi la racine d'ailleurs? Intérêt économique, destructeur? Bah, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais. Je te laisse.
Ben oui, enfin, je pense que c'est pas la meilleure personne pour répondre à cette question, mais clairement, on fait la guerre pour des ressources. On fait pas la guerre pour le plaisir, et on fait pas la guerre. Alors, je dirais on fait la guerre pour deux choses. Enfin non, pour une chose, pour des ressources. Et on a des ressources soit en accaparant un territoire et en en prenant le contrôle, soit à travers quelqu'un qui s'accapare le territoire pour toi et qui t'en prend le contrôle et qui te rendra, on va dire, des intérêts sur cette prise de contrôle, quoi. Mais et donc les grandes choses qui font qu'aujourd'hui on fait la guerre, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est les ressources, enfin, c'est les ressources en général, dont l'énergie, quoi. Clairement. Donc aujourd'hui, plus le si on est, enfin, vous avez peut-être, étant des aficionados de Thinkerview, vous avez dû écouter Jean Covici. Plus les ressources se réduisent, plus la tension va monter, et plus on va se taper sur la gueule, hein. Clairement. Donc, dans la position d'aujourd'hui, je vais être encore hyper cynique, mais vous voulez un job qui sera encore là dans 10 ans, bah, rentrez dans l'humanitaire, hein. Parce qu'en fait, des guerres, je pense qu'il y en aura de plus en plus, quoi. Voilà.
Écoute, je te propose justement qu'une petite dernière question de Mira, qu'on clôture du coup cette partie-là et qu'on laisse après libre cours aux questions. Justement, Mira qui posait, alors on va faire justement, je pense, cette dernière question. Tu parlais de cynisme pour justement par rapport à ton intervention du début. Après 10 ans d'humanitaire, on devient cynique. Ce cynisme aujourd'hui s'exprime comment? Se traduit comment dans les faits? Elle nous dit, Mira, j'ai fait seulement un an d'humanitaire, ça a suffi de me rendre cynique et à préférer l'action politique.
Ouais. Cynique dans le moins, l'effet pour moi, c'est le comment dire, le fait que je ne crois pas aux solutions politiques, clairement pas. Et qu'en fait, je pense qu'on est des pions, et qu'en fait, quelque part, il n'y a que des éléments extérieurs à l'humain qui feront varier les grandes décisions géopolitiques prises par les lobbies, par le lobby d'armement, enfin, en tout cas, la manière dont ils influencent le système et les États, quoi. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on commence à se dire merde, on va peut-être finalement, on va peut-être pas faire tout ce qu'on veut parce qu'en fait, il n'y a pas de pétrole, ou parce que la moitié du pays est en train de cramer, ou parce qu'il n'y a pas assez de cuivre, ou pas assez de zinc, ou pas assez de tungstène, pour faire tout ce qu'on veut faire. Ça crée des tensions et donc il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule. Donc, je pense que ce sont les facteurs extérieurs qui guideront la manière dont le monde va s'organiser dans le futur. Mais que finalement, malgré tout, on est tellement dépendant, notre système capitaliste est tellement dépendant de ses ressources, qu'en fait, il lâchera pas comme ça. Et donc, ça va continuer. Et qu'il n'y aura pas justement de solution politique, parce que la politique, elle répond à des donneurs d'ordre, hein. C'est pas eux qui décident, quoi. Voilà, mon cynisme, il est là.
Écoute, c'est parfait. Je te propose du coup qu'on clôture ce livre blanc pour la première partie. Éventuellement, Allez, juste la question, si est-ce que éventuellement tu aurais un livre peut-être à conseiller à la communauté pour justement par rapport à toi, à ton expérience?
Ah les gars, j'y avais pas pensé en plus d'habitude, ce genre de truc que je kiffe quand tu regardes ma bibliothèque. Fox qui est dans le en train d'écouter pour confirmer. Un livre à conseiller. Je regarde vite fait là, qu'est-ce que. Ouais. Ah, je vais en donner plus qu'un, c'est pas possible, je peux pas en donner qu'un. Le premier que je vais donner, c'est Full Spectrum Resistance de Arik MacBay. Arik, A-R-I-C, MacBay, M-C-B-A-Y. Full Spectrum Resistance, il est en deux tomes et il a été traduit en français, donc il est dispo. Il est hyper intéressant sur justement les luttes de résistance dans l'histoire et la manière dont elles ont aidé, elles ont fonctionné, elles ont réussi ou pas. Absolument à lire. Je le conseille vraiment de très très fort. Deuxième bouquin, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu, qui pour moi est clé quand on veut comprendre certains des mécanismes aujourd'hui de fonctionnement de la vie, enfin de la géopolitique. Et allez, pour la déconne, il est là, ah ouais. Un bouquin qui est assez âgé, mais qui est tiré d'une histoire vraie, ça s'appelle Emergency Sex. C'est écrit par trois humanitaires, Kenneth Kane, A.D. Postlethwaite et Andrew Thompson, Emergency Sex and Other Desperate Measures, et qui est un compte-rendu, on va dire romancé un peu, de leur vie d'expatriés. Je crois que ça commence au Cambodge, dans les années 90 de tête, ou 80, je ne sais plus. Et voilà, et de leur vie d'humanitaire, comment ils gèrent. Le stress de cette vie humanitaire, et donc le sexe étant combien, un échappatoire au stress qui est généré quand t'es un humanitaire. Voilà.
Eh bien, en tout cas, Red Crow, je pense que le livre blanc a plu à tout le monde. Je pense que tout le monde te remercie grandement pour toutes ces. Ben justement, tu as répondu, je pense, à masse de questions. Et
Yes.
du coup, vraiment, un grand, grand merci.
Ben, avec
Et du
plaisir.
coup, on va pouvoir passer sur la partie numéro 2, c'est-à-dire le libre service. Et du coup, Prali et Azote, vous pouvez couper les deux bottes. Ou plutôt les deux.
Merci en tout cas à tous de vos questions. Et puis bon, s'il y en a qui veulent encore shooter des questions, papoter, c'est open.